9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
Bonjour à toutes et à tous, saison 2, épisode 17 de votre club de l'été, un épisode rythmé, un épisode très féminin, un épisode joyeux, oui, c'est ce qui vous attend normalement, hein, de 9h à 11h en direct. 2 heures de culture, de balade en France et de gourmandise à concocter ou à déguster, une émission au cours de laquelle vous entendrez les mots sœur, voyage, littérature, péplum, baba au rhum et course à pied. Et si vous pensez que tout ça est un peu foutraque, ne vous inquiétez pas, ils sont là pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Nos experts, Lise Pressac pour le tourisme et la culture et Olivier Pouls pour la gastronomie. Salut les amis, comment ça va?
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Bonjour Eva, ça va pas bien.
Qu'est-ce qui se passe?
J'étais ce matin très, très joyeux, ravi de venir vous retrouver, etc. Puis paf, ce texto qui tombe sur les coups de 7h50.
Non mais vous n'allez pas me faire la blague quoi.
Et alors, j'ai dit mais Eva, est-ce que tu as préparé les poivrons que tu nous avais promis hier?
Oui.
Et là elle me dit non, j'ai pas eu le temps.
Voilà.
Et ben voilà. Et ça
vous sentez obligé de raconter ça à l'antenne en direct sur Europe.
Elle avait promis hier qu'elle nous amènerait des poivrons.
Ben oui, mais j'ai travaillé et j'ai fini trop tard hier soir.
Je me réjouissais, moi.
Faut rien promettre à Olivier Pouls, Eva.
Surtout quand c'est à manger.
Vous allez chanter pendant l'émission.
D'autant que le caviar d'aubergine d'hier était délicieux.
Très bon,
donc,
je sais.
Je me réjouissais.
Bon, Lise, on a deux invités ce matin. L'une d'entre elles est originaire d'Angers. Est-ce que c'est là que nous partons?
Tout à fait, inspecteur Eva Rock. On va aller dans le Maine-et-Loire, dans le village troglodytique de Rochemenier.
Ah, j'ai regardé les photos. C'est absolument sublime. J'ai déjà envie d'y aller. En plus, en période de chaleur, là, ça doit être très très bien. Olivier, notre autre invité, aime le Pays Basque. Est-ce que la gourmandise du jour vient de cette région?
Ah ben, bien sûr. Puis là, croyez-moi, au Pays Basque, il y a de quoi faire. Hein.
Ouais, j'imagine bien. Nous mettrons fin à l'émission avec une recette de tapas. Hein, c'est le thème de cette semaine pour
les
recettes.
Pas des poivrons, en l'occurrence.
Voilà. Puis vous nous offrirez un vrai faux des fourneaux. 2 heures pour aborder tous ces sujets et bien d'autres. L'émission est construite aussi autour de nos coups de cœur culturels et nous allons tenter de vous démontrer encore une fois. Vous êtes les bienvenus dans ce club de l'été. À vous de réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur Instagram. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac et Olivier Pouls, nos invités sont deux. Elles pourraient être sœurs, mais elles ne le sont pas vraiment. Leur talent, la chanson. Chers invités, voici quelques sons qui parlent un tout petit peu de vous.
À la campagne de voyage, dont les yeux, charmants paysages, font paraître court le chemin.
Saint-Jacques-de-Compostelle, un nom mythique, celui d'une ville en Espagne, mais surtout, des milliers de kilomètres de chemin à parcourir pour y arriver.
Je ne suis plus qu'une ville en cendres, sous mes murailles gisent les méandres de quelques vagues restes de toi, de quelques bouts de vie, tu vois, non jamais je ne t'ai oublié.
Alors le ditalélé ou la ditalélé, je sais jamais vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est le mélange ou le crossover, comme on dit quand on veut faire style, on maîtrise l'anglais, entre une guitare et un ukulélé.
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
Bonjour, vous me reconnaissez? Je suis Simone. C'est moi qui, tous les jours, vous donne l'information dans les gares et dans les trains.
Je m'en vais.
Elles doivent se dire, mais on est tombé dans une émission de fou. Bonjour,
ouais, c'est très stylé.
On adore
la présentation.
Bonjour les filles, nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce club
moi,
de l'été sur Europe 1. Et vous êtes très bien entouré, Olivier.
Ah bah il est sympa.
Mais oui,
en fait, mais oui, il n'est pas si méchant.
Non, il n'est pas si méchant. Je vous présente Anne et Jacinthe. Vous formez un duo baptisé Les Frangines. Vous venez de sortir votre premier album qui porte votre nom. Et depuis plusieurs semaines, vous multipliez les concerts. On vous entend beaucoup sur les ondes parce que votre titre tourne, on l'écoutera tout à l'heure d'ailleurs. On a presque 2 heures pour comprendre qui vous êtes, votre parcours et vous écouter chanter, évidemment. Mais avant, quels sons vous avez détectés dans vos petites oreilles qui expliquent un peu votre parcours?
Ah ouais, bah c'était plein de sons, j'ai bien aimé la présentation.
On va faire Anne Jacinthe.
Ouais. Il y en avait plein, il y avait d'abord... Attends, c'était quoi le tout premier
sur la campagne,
sur la campagne, je pense que c'est un peu nos influences.
Ouais.
C'est notre mode de vie. Même si moi je suis à Paris et toi dans une ville aussi, à Nantes. Après il y avait quoi?
Après on a entendu
deux titres, on a entendu Les Cris d'Alep,
qui est une de vos chansons. Ouais.
Voilà. Et une autre, c'était La Route de Saint-Jacques. Non, il y a eu Saint-Jacques de Compostelle. Mais
c'était un petit bout de reportage de Saint-Jacques sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Vous savez pourquoi?
Ah bah pour la route, non?
Ouais, pour la route.
C'est
et ça. Puis
vous n'avez pas marché sur la
si,
route?
Si, si, on est parti plusieurs fois. Ouais, on est parti pour
faire.
Non, pas en entier, on a fait que des petits bouts. Ouais, on n'est pas des vrais.
Parce que c'est long.
Non, moi j'aimerais bien le faire en entier. Franchement, c'est canon comme chemin, c'est trop cool.
Oui, parce qu'on adore marcher. Vous allez nous expliquer, vous êtes plutôt sac à dos que valise à roulette.
Oui,
ouais,
plutôt. Ouais.
On a entendu un petit bout de Victor Hugo, récitant un très très beau poème de Main des Lobes, qui est aussi le titre d'une de vos chansons.
Voilà.
Et vous vous êtes aussi rencontrés parce que vous aimiez les lettres. Hein, c'est... Alors, on va dire tout de suite que vous n'êtes pas frangine. Vous appelez les frangines, mais vous n'êtes pas sœurs.
Non.
On va expliquer pourquoi, mais vous êtes très amies depuis très longtemps.
Oui.
Et c'est aussi cet amour pour les lettres qui vous a rapprochés.
Qui nous a soudés, ouais. Mais ouais, c'est venu plus tard.
Oui, mais c'est vrai que très tôt, en fait, dans notre amitié, on a écrit, on se montrait un peu ce qu'on faisait, on aimait bien, on était un peu passionnés par les mêmes choses. Pas forcément la littérature, parce que bon, quand on est en 6e, 5e, on a d'autres passions.
C'était quoi les autres passions?
Les garçons. Les garçons, c'est venu un peu plus tard, non? 6e, non, on était encore toutes. Non, on aimait quoi? Dessiner.
Ouais, on peignait déjà, on dessinait ensemble. Puis comme deux copines de 14 ans.
Ouais.
Quoi.
Et alors justement, vous étiez ensemble, notamment dans un train. Bon, c'est pour ça que je vous ai mis la voix de Simone.
Ouais.
Parce que c'est dans le Transilien que, que vous vous êtes captés.
Ouais, voilà. C'est ça. Ah oui, c'est pour ça.
Je suis désolée.
Ah oui. Ouais, c'est vrai. On prenait le même train pour aller en cours et puis on se voyait toujours parce qu'on habitait à une station d'écart.
On n'était pas dans la même classe à l'époque en fait.
Ouais. Et on se voyait toujours dans ce train, mais on ne se parlait pas. Et donc Jacinthe est venue me voir un jour en me disant « c'est trop bête ». On pourrait être super copines.
Je me disais, elle n'a pas l'air méchante, quoi. Si on peut passer un peu de temps ensemble plutôt que d'être tout seul, chacun de son côté.
Et puis alors, on a entendu un bout d'une vidéo YouTube qui nous explique la différence entre un ukulélé
et
une guitare. Pourquoi? Parce que, enfin, je vais vous expliquer. C'est parce qu'en fait, j'ai vu une interview de vous, notamment Jacinthe. Ouais. Vous adorez le guitalélé.
Ouais.
Je ne savais même pas que ça existait. Je pensais que c'était une blague que vous aviez faite à l'antenne. Et donc, c'est une petite guitare qui est croisée avec une sorte de ukulélé.
Exactement. C'est un peu plus grand qu'un ukulélé, mais c'est à 6 cordes. Donc c'est vraiment comme une guitare. Enfin, c'est pas dans les mêmes tonalités, mais c'est comme une guitare. Et c'est pratique parce qu'on peut l'emmener partout. Et donc en voyage, quand on part vadrouiller, c'est très pratique.
Sauf que là, ce matin, je vous ai fait venir avec vos vraies guitares, toutes les deux.
Oui.
Pas du tout embarrassantes. Intéressées. Les pauvres, on les a vu arriver avec leurs deux guitares sur le dos.
On a l'habitude de les porter.
En tout cas, on est très heureux de vous recevoir
ce matin.
On
est trop contentes.
On va essayer de comprendre qui vous êtes. Un petit test, puisque vous n'êtes pas sœur, mais que vous appelez les frangines et que c'est pas très cool de nous embrouiller. Vous allez me dire si frère ou sœur ou aucun lien entre les gens que je vais vous citer. Frérot de la Vega, ils sont frères ou pas?
Non.
Ils sont potes.
Ouais. Et Brigitte.
Non, frérot, un de la Vega.
Ouais, Brigitte.
Ah, elles sont potes, non?
Elles sont potes, ouais. Angèle et Roméo.
Oui, ils sont frères.
Ouais, ouais. Big Flo et Oli.
Frère.
David
et Jonathan. Frère.
C'est le matin.
David et Jonathan.
Oh, vous les connaissez pas, elles sont trop jeunes.
Oui,
vous mais non, elles sont trop jeunes. Non, c'est pas
on
le problème.
On est en train de faire genre, on connaissait, mais.
Non, mais c'est surtout que je viens de me prendre une grande claque. On va vous faire écouter David et Jonathan.
Est-ce que tu viens pour les vacances? Non, mais non.
Ah si, non.
Est-ce que tu viens pour les vacances?
Oui, ça. Oui, Anne, c'est
ça. Je connais ça.
Voilà. Bon, mais ils n'ont pas frères.
Non, ils sont pas frères.
C'est pas grave. Comment c'est pas grand chose de vous. Première question basique, vous avez quel âge? Jacinthe.
Donc 26.
Et Anne
25.
Voilà. Eh bien, maintenant qu'on sait tout, on a jusqu'à 11h pour évoquer votre duo, votre parcours, votre album, dans lequel on peut entendre notamment l'extrait qui suit, Donnez-moi, par les Frangines. Ça donne ça sur Europe 1, évidemment.
J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été, donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté, donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Sans amour, nos vies sont dérisoires. Oh, 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 oh. de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, oh, eh.
Les Frangines sur Europe 1, soit Anne et Jacinthe, nos deux invités du Club de l'été et avec qui nous poursuivons l'émission dans un instant.
Le Club de l'été sur Europe 1,
9h, 11h,
Eva Rock.
Il est 9h23. Les filles,
David et Jonathan.
David et Jonathan, c'est pour vous.
Mais bien sûr,
à la mer, c'est à...
Ah, je savais pas qu'ils s'appelaient
David et Jonathan. Et ils sont pas du tout ni frères, ni cousins, ni quoi que ce soit. C'était deux potes comme vous, en fait. Ouais. Hein. Voilà, vous avez compris, c'est les Frangines qui sont avec nous. Nous sommes
j'aime
en direct
bien,
sur Europe 1. Ouais. Ben voilà.
Vous
pourriez la...
Je vous souhaite une carrière un peu plus longue.
Oui, oui, on vous souhaite une carrière plus longue. On vous souhaite une carrière plus longue. Mais peut-être un titre à reprendre, un peu version folk, je sais pas, ça peut s'envisager.
Ça peut, ouais, franchement, c'est que j'aime bien, moi.
Alors, les Frangines, elles ne sont pas sœurs de son, mais elles sont sœurs de cœur et c'est déjà beaucoup. Elles sont avec nous ce matin. Vous n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Avec Lise, on va relayer vos messages et vos questions également à Anne et Jacinthe. Les filles, on l'a dit, vous n'êtes pas sœurs, mais vous êtes donc amies. Comment on passe d'amies à chanteuse en duo? J'allais dire adieu, en duo. Qui c'est qui répond?
Comment passe, alors, c'est moi qui réponds. Comment on passe d'amis à chanteuse en duo?
Non, parce que par exemple, je suis amie avec Lise Pressac et Olivier Pouls.
Elle ne voulait pas qu'on chante.
On fait des karaokés, mais on n'a pas décidé d'entamer une carrière professionnelle de chanteur.
Mais en fait, nous, on n'a jamais trop réfléchi à ça. C'est-à-dire qu'on a toujours suivi nos intuitions. On est toujours tombé sur les bonnes personnes. Franchement,
oui,
on a...
Il y a bien un moment où vous vous dites, tiens, on va se mettre à chanter toutes les deux. Oui. Tiens, nos voix s'harmonisent.
Oui.
Tiens, on a des textes.
On a toujours aimé chanter toutes les deux. Ça, c'est sûr.
Est-ce que vous avez commencé au karaoké, par exemple?
Ah, on a fait des karaokés, bien
adoré.
Sûr.
Ouais,
ça, c'était,
ouais,
ma, moi, c'était ma vie, les karaokés.
Ouais.
Bah, pour mes 18 ans, elle m'avait organisé un anniversaire surprise dans un karaoké. Tu te souviens?
Ouais, c'est vrai. C'était
très marrant. Ouais. Et donc, on a toujours aimé chanter toutes les deux. Mmh. Et c'est vrai que c'est plus en terminale qu'on a chanté Yé, Mamayé dans la classe. et là, on s'est dit, là, il y a un truc.
Ouais, en fait, on s'est mis quoi à la guitare en même temps, et c'est vrai, enfin, assez tard en fait, hein,
en terminale,
ouais. Terminale, première année, quoi. Et comme on écrivait toutes les deux, enfin, on a commencé à écrire toutes les deux sur des poèmes, à se montrer un peu ce qu'on faisait, c'est vrai qu'on a commencé du coup à chanter à deux.
Dans nos chambres.
Et pourquoi est-ce qu'on a continué?
Non, c'est juste qu'en fait, on vraiment kiffait, en fait. On
oui,
s'est
mais après,
dit...
il a fallu se dire, je passe sur dans un bar, ou je passe sur la scène de la Cité U, j'accepte de monter sur la scène.
Je pense que, ouais, c'est ça, la Cité U, d'ailleurs, on a fait. Et c'était...
C'était une rencontre, en fait. On a rencontré un gars sur les chemins de Saint-Jacques, justement.
Ah oui, d'ailleurs, ouais.
Aurélien, qui nous a vachement motivés, qui nous a bougés, qui nous a dit, bon allez les filles, on fait un premier truc. Nous, on avait l'impression d'être à l'Olympia, hein, déjà. Non, mais vraiment.
Et vous avez chanté quoi sur cette petite scène de la Cité U?
On avait fait des reprises
ouais. De la chanson française. Lui, il nous a fait... Aurélien, il connaissait plein de trucs un peu, tu sais, qu'on ne connaissait pas trop. Il nous a fait découvrir un peu...
Chatimousse
et
tout ça.
Ouais, un peu reggae, je sais pas. Il nous a fait découvrir un peu des sons qu'on ne connaissait pas forcément. On a... Je sais plus sur quoi on est parti, mais on a fait. C'est vrai que c'était très marrant cette époque parce qu'on a commencé à chanter dans la rue, à Montmartre. Mmh. On avait passé le casting du métro.
Ouais, qu'on a raté.
Ça, il ne faut pas le dire.
Et le premier disque alors?
Et le premier disque, il est tout récent. Il a mis du temps à.
Mais il y a eu
un premier EP.
Il y a eu un premier EP. Ouais.
Alors,
un premier
EP, c'est un mini album pour expliquer
oui,
à nos auditeurs.
Mmh. Oui, pardon.
Mais alors, bon, vous destinez à une carrière professionnelle aujourd'hui, mais il y a encore 4 ans, vous vouliez faire quoi dans votre vie? C'était quoi le projet de vie, Anne?
Franchement, moi j'ai l'impression que ça a toujours un peu changé, mais c'était pas, clairement, c'est vrai que c'était pas chanteuse au début, parce que je pensais pas du tout en être capable, je pensais pas qu'il y aurait de la place, quoi, pour nous, et je pense qu'on l'avait pas envisagé. Donc moi je voulais faire de la communication, journaliste, franchement je suis passée par plein de trucs, architecte.
Ça sera votre place, Eva.
Et ouais, voilà, c'est là, j'aurais voulu être vous.
Juste de gagner. Et Jacinthe.
Et ouais, et moi, je voulais bosser dans la solidarité, l'action sociale. C'est vraiment ce que je voulais faire. Mais en même temps, on a toujours fait la musique en parallèle. Ouais. Et moi, j'y croyais un peu. Enfin, moi, je me disais, il y a un truc cool qui se passe quand on est toutes les deux et quand on chante et voilà. Mais pour autant, vraiment, je ne me projetais pas du tout dans le professionnel là-dedans.
C'est ça
que
tu croyais.
Moi, j'y crois. Ouais.
Vous avez tenté des castings de télécrochet Oui.
Alors, non. Alors, par contre, tu me dis casting, on a tenté un truc.
Casting du métro ?
Non, l'autre truc, la comédie musicale.
Ah oui, on était. Ah ouais, c'était trop
pareil. Vrai. C'est un échec.
Mais pourquoi ? Parce que vous vous êtes présentée à la comédie musicale toutes les deux.
Ouais, en fait, je sais pas ce qu'on a fait. On a commencé, c'était un truc un peu pas classique, mais les gens chantaient. Si, les gens chantaient un peu des trucs.
Chantaient du Mozart et tout. Ouais. Et nous, on est arrivés, on a chanté Oh, Freedom. On était complètement décalés.
on avait pas trop regardé ce que c'était, en fait.
Les meilleurs fous rires de toute ma vie.
Est-ce que vous avez béni dans un environnement musical ? Est-ce que vos parents vous faisaient écouter beaucoup de musique ?
Ah oui, ouais.
Oui, Anne.
Moi, beaucoup. J'avoue, on aime bien écouter de la musique à fond. Et c'est vrai que les parents et mes frères écoutent un peu de tout. Donc, très tôt, j'ai été baignée un peu dans la musique. Après, il n'y a pas de musicien. Si, mon frère joue de la guitare, mais bon, il n'y a pas vraiment de
professionnels, en tout cas. Ou en tout cas, de gens qui font de la musique tous les jours. Et Jacinthe
Et moi, j'ai baigné dans un milieu artistique plus large que la musique. Mon père est très artiste. Il est peintre, voilà. Donc, on a été très sensibilisés à la beauté et tout ça. Pour la musique, oui, mes frères et sœurs font tous de la musique. Donc, moi, on m'a dit, toi, tu ferais de la flûte. Donc, j'ai fait de la flûte pendant 15 ans.
15 ans de flûte. Ah oui,
ça laisse des marques.
Non, mais Olivier Pouls, pas de la flûte, pas du pipeau, comme on faisait en troisième.
Alors, un peu. C'est de la flûte. La flûte à bec.
Non, mais de la flûte à bec.
Mais en fait, il y a la petite soprane qui casse les oreilles.
Oui.
Et il y a l'alto. Et l'alto, c'est vraiment beau, franchement.
Et vous avez fait de l'alto.
Oui, j'ai fait de l'alto.
Mais voilà, c'est pour vous faites de la petite guitare, mais de la grande flûte.
Exactement.
Hein. Voilà, vous jouez avec les instruments.
Voilà.
Vous avez compris, Olivier ?
Oui, bien sûr.
C'est pas le truc où attention, on faisait, voilà. Non, vous avez le droit de... Non,
parce que j'avais 2 sur 20 en flûte à l'école, moi.
C'est vrai ?
On ne notait pas.
Le pire, c'est que on n'en faisait même pas à l'école, nous.
Non.
Non, toi, tu l'as vraiment fait par passion, on peut le
dire. On m'avait dit, toi, tu feras de la flûte.
Bah, 15 ans quand même. Hein.
Ouais. C'est moins encombrant que le piano en même temps.
C'est moins encombrant.
Mais tu peux pas chanter.
C'est vrai.
C'est très difficile.
C'est ça, un peu compliqué.
Dans un instant, Anne et Jacinthe, alias les frangines, vous allez nous faire partager votre coup de cœur culturel. Et alors, j'avoue que j'ai explosé de rire. À tout de suite sur Europe 1.
On prend le temps. On se détend.
Avec le club de l'été sur Europe 1.
Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été en présence de nos invités dont vous entendez les voix, les explosives Anne et Jacinthe qui forment le duo des frangines et dont les chansons inondent les ondes depuis quelques semaines. Alors Anne et Jacinthe, comme pour tous les invités, nous vous avons demandé en amont de l'émission de nous dire quel était votre coup de cœur culturel. Cette émission existe depuis l'an dernier. On a compté combien d'invités,
8 semaines l'an passé, donc on est à 40 invités. Là, on est à une quinzaine à peu près.
10, oui, on va dire 15, voilà.
Voilà, donc 55
d'invités, voilà. Et vous êtes les premières à m'avoir répondu à quel est votre coup de cœur culturel. Vous cite la truffade qu'on a découvert lors d'un concert dans le Cantal à Saint-Hilide. Alors, en fait, on était très heureux de vous recevoir parce que je me suis dit, en fait, les invités sont pires que nous dans la folie. On parlait de coup de cœur culturel, les filles. Mais on va admettre, on a réfléchi.
La truffade, c'est de la culture. Bien sûr.
Gastronomie française, bien sûr.
Jacinthe, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'est que la truffade, parce que figurez-vous qu'avec Lise, on ne connaissait pas.
Nous non plus.
Vrai. Voilà. On a découvert, du coup, dans le Cantal, grâce à ce concert. Et c'est une espèce de grosse pâtée, tu vois.
Ça donne envie.
De patates et de fromage. Il y a des patates, hein. C'est des patates. Oui, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de fromage.
De l'ail, un peu.
Et c'est pas de la ligot, mais on pourrait dire que ça se rapproche.
Oui, c'est dans la même famille.
Ouais. C'est la même famille, voilà.
Ça tient bien au corps, hein. C'est plutôt hivernal qu'estival.
Malgré le nom, il n'y a pas de truffade.
Il n'y a pas de truffade.
Parce que donc, j'ai découvert en cherchant quand même que le mot truffade se rapprochait de... Enfin, c'est le nom de la pomme de terre qu'on utilise, c'est ça, hein, pour faire ce plat, Olivier.
Je me trompe pas. C'est ça, ok.
Et alors, vous avez découvert ça à quelle saison ?
Il y a deux semaines.
D'accord.
En pleine canicule.
C'est ça. Les frangines, est-ce que vous lisiez beaucoup quand vous étiez enfant ?
Moi, beaucoup, beaucoup. Ouais.
Est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué, Anne, dans votre enfance ?
Moi, j'adorais toutes les séries, enfin, la série de livres d'Agatha Christie.
D'accord.
Hercule Poirot et tout, j'adorais ça.
Et Jacinthe ?
Moi, je lisais pas beaucoup, j'avoue.
Vous lisiez pas beaucoup ? Non. Alors, vous avez en face de vous
Michel Rézère. Chaque année, le roman jeunesse est honoré d'un prix qui s'appelle le prix Gulli. Et Michel, vous êtes romancière, réalisatrice et présidente de ce prix et fidèle du Club de l'été. Bonjour Michel Rézère.
Bonjour Eva.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Vous avez reçu 90 romans en présélection qui sont destinés...
Même plus.
Plus que 90 romans ?
Autour de 90, mais chaque année, on a voilà, donc... Et les romans qui nous sont envoyés sont déjà une sélection, puisqu'on demande aux éditeurs de choisir les romans pour concourir. Quoi. Voilà. Donc, c'est eux qui font un premier choix. Donc vous imaginez...
Et vous avez abattu un boulot de dingue, et vous en avez retenu 6. Ouais. 6 qui prétendent au prix Gulli, qui sera remis le 25 septembre. On va en reparler. Alors, vous allez nous les présenter, ces 6 livres en exclusivité mondiale. En plus, ça va donner des idées aux parents. On commence avec quoi ? Caviar, Poisson, Star ?
Oui, ce que je veux dire, c'est qu'on est toute une équipe. Hein.
Oui,
voilà, une
bien
équipe
sûr.
Qui fonctionne très
J'imagine
bien.
J'imagine que vous ne lisez pas toute seule dans votre coin, Michel.
Voilà. Donc, et puis, de toute façon, ce ne serait pas bien, puisqu'il faut tenir compte d'avis différents du sien. Voilà. Écoutez, cette année encore, c'est d'une richesse. La littérature pour la jeunesse, vous le savez, Eva, est d'une richesse incroyable. Elle représente beaucoup de la... je crois qu'elle représente plus de 20% de l'économie générale de la littérature. Et c'est en rien une sous-littérature. Alors, beaucoup de textes littéraires, à la fois littéraires loufoques, l'imagination est au pouvoir, c'est ce qu'on aime aussi.
Oui,
parce
bien
que
sûr.
Il y a des critères, on veut un texte écrit en français entre le mois de janvier et le mois de septembre, et on veut des textes qui
rendent un peu intelligent aussi.
Oui, mais à la fois qu'ils soient... on aime bien l'éclectisme, on aime bien ce qui est loufoque, le jeu sur les mots, il y a beaucoup, vous allez voir. Alors, je vais commencer par l'histoire d'un poisson rouge. Alors donc, c'est
un poisson star.
C'est une jeune maison d'édition qui s'appelle Pulp Fiction. Et, c'est l'histoire d'un poisson rouge qui est le poisson rouge d'une star, justement, d'une chanteuse. Et donc, il a un égo assez surdimensionné. Et cette chanteuse disparaît, il est complètement désemparé, évidemment. Et il se retrouve dans une famille qu'il juge très banale et où on lui donne comme prénom, en plus un prénom ridicule, puisqu'on l'appelle, pour lui, s'il le trouve ridicule, on l'appelle Caviar. Alors, il va vite découvrir que dans cette famille, il y a un petit garçon qui va être son allié et puis une grand-mère complètement loufoque. Et très souvent, on retrouve... Et ça, on voit que dans la société, parce que les livres pour la jeunesse reflètent ce qui se passe
bien sûr.
Dans la société, à l'école, dans les familles. Et il y a une grand-mère qui a la maladie d'Alzheimer. Et ça, on retrouve dans plein de livres un grand-parent qui a la maladie d'Alzheimer. Mais ce n'est pas du tout triste, au contraire. Elle est complètement loufoque. Elle devient l'alliée du poisson rouge qui va réussir à redevenir une star et à faire valoir...
Mais dites pas tout, hein.
Et à faire valoir...
et à faire valoir
et à faire valoir ses talents de ténor.
C'est drôle,
de Justine,
ça. Ouais.
C'est vraiment plein d'humour. Et ça s'appelle Caviar Poisson Star.
Voilà. Et le point de vue, c'est le point de vue de qui, alors ? Du poisson rouge ou le...
Oui,
quel point de vue adopté ? Non, mais c'est intéressant.
Oui, c'est une histoire de poisson rouge, mais voilà. Donc,
ouais, okay. Donc... Le narrateur, c'est le...
Oui, c'est... Enfin, si on peut appeler... si on peut appeler ça un narrateur. Mais en fait, il y a vraiment une trame narrative, il y a un roman avec des personnages. Voilà, évidemment, on a tout le temps
ça donne envie,
le point de vue.
Jacinthe, elle est très intéressée parce que bientôt, il va y avoir un petit bébé dans sa vie.
Qu'il va y avoir des poissons rouges.
Je vais déjà lui raconter. Ouais.
Alors, il faudra attendre un petit peu, mais il faut lui lire des livres très, très tôt. Moi, je lisais des livres à mon fils dès qu'il a ouvert l'œil. Hein. Je commençais à lui raconter des histoires et je lui en ai raconté tout le temps. Même, je lui ai raconté le mythe de la caverne, des histoires de Platon et tout ça très, très tôt.
Michel, parce que vous avez encore 5 bouquins à
vous présenter.
C'est comme vous voulez. On n'est pas là jusqu'à 17h.
On a demandé à avoir 4 heures d'émission, mais on ne les a pas obtenus.
Ouais.
L'enlèvement de V. Pardon, je vous ai perturbé. Allez-y.
Non, mais ça peut être l'enlèvement de V.
L'enlèvement de V,
c'est Pascal Prévost. Encore un livre excessivement loufoque. Pascal Prévost, vous vous souvenez, il avait eu le prix il y a quelques années avec Thomas, chasseur de baignoires en Laponie, c'était du Boris Vian.
C'était
et là,
extraordinaire,
il réitère, c'est formidable. Au ministère de l'orthographe, on a enlevé le V. Alors on le remplace par le W, c'est la panique absolue. Donc il y a un jeune garçon qui travaille là-bas qui s'appelle... Oh, regardez, Omicron Pi, ça c'est drôle, qui se fait aider par une Mira et puis par des centenaires encore, ou des presque centenaires complètement zinzin. Et il y a une intrigue derrière semi-policière, on est en plein Oulipo, on est en plein Bobby Lapointe, tout ça, c'est génial. Et c'est aux éditions Rouergue.
Le troisième.
Alors là, c'est beaucoup plus sérieux. Enfin, c'est beaucoup plus sérieux. Ils sont tous sérieux et loufoques. Mais je veux dire, le thème est un thème grave, puisque ça s'appelle les mots d'Hélio. C'est beaucoup d'émotions, de une très grande qualité aussi dans le récit. Et une trame narrative très particulière, puisque c'est tous les personnages qui interviennent les uns à la suite des autres. Et c'est un petit garçon qui est aphasique. Et à la suite d'un traumatisme crânien, il perd l'usage de la parole. Mais il garde ses facultés cognitives. Et sa mère est sous le choc, donc elle est dans une bulle, elle ne peut pas s'en occuper. Donc il est placé dans une famille d'accueil. Alors on ne sait pas d'ailleurs pourquoi il est placé dans cette famille d'accueil. Et voilà, donc y a un mystère qui va être élucidé à la fin. C'est magnifique, c'est un livre magnifique qui s'appelle Les mots d'Hélio et c'est aux éditions Maillard Jeunesse. Voilà. D'accord. Alors après, les étonnantes aventures du merveilleux minuscule Benjamin Verlier. Alors un titre pareil, hein, on sait, c'est de Julien Dufresne-Lamy et c'est aux éditions Actes Sud. Alors c'est un petit garçon à qui assez tôt on découvre qu'il a un don. Voilà, il lui suffit de toucher les gens, il est télépathe.
C'est sympa, c'est très stylé. Alors,
et il est minuscule, il ne grandit pas. Donc à 13 ans, il a toujours ce don. Sauf que c'est un don un peu encombrant, parce qu'être un sorcier, c'est bien. Mais parfois, on n'a pas envie de porter les lourds secrets des gens. Et alors, il est fils de diplomate, donc il se retrouve au Japon. Et là, il va faire la connaissance d'un monde très nouveau et de deux amis japonais qui ont aussi un don très, très spécial.
Ça donne envie de lire tous les bouquins.
Ouais, voilà. Ouais,
c'est vrai, hein, ouais, franchement. C'est justement, peut-être que vous parliez, vous lisiez peu quand vous étiez enfant, mais vous lisiez quand même. Hein, et vous avez entendu parler de Cyrano de Bergerac.
Ah oui, là, on a
cinq de Bergerac. Je n'aimais qu'un seul homme et je le perds deux fois. Et alors là, l'idée absolument géniale, ça s'appelle Sam de Bergerac. C'est un petit garçon, un jeune garçon, pas un petit garçon, qui est très doué en français et qui a ils ont un professeur qui les tyrannise. Et son meilleur copain est très amoureux d'une petite fille et donc il va lui écrire la lettre d'amour.
Oh,
mais
magnifique.
Le problème, c'est que le secret va être rendu public. Enfin, les autres copains vont le découvrir. Donc, il va devenir l'écrivain public. Il va écrire des lettres d'amour. C'est un piège total pour toute la classe.
Celui-là.
Ah, c'est formidable. Pour toute la classe. Et alors,
vous allez me l'offrir, Michel,
voilà,
celui-là.
Et il y a une sœur là-dedans qui est très manipulatrice et qui est très drôle aussi. Et ça s'appelle Sam de Bergerac, vous verrez. Okay. C'est aux éditions Thierry Magnier. Puis je finis, j'ai commencé par les poissons.
Oui.
Je finis par la baleine.
Allez, voilà, la baleine.
Avec
Moi baleine.
Voilà, une publication.
C'est le titre du livre, hein, c'est pas moi qui le dis.
Moi baleine. oui, parce que. Moi baleine, et c'est Oriane Charpentier, vous vous souvenez, il y a quelques années, elle s'était fait remarquer avec Rage. C'est un excellent écrivain. Et donc là, c'est l'univers, évidemment. De sous-marin, le grand bleu, la baleine, et c'est avec les hommes et qui sont les ennemis, et, enfin les personnes dont on sait ce métier. Il y a une dimension poétique absolument incroyable dans ce livre. Il est une trame narrative très poétique et à la fois très documentée. Et elle écrit à la première personne. Et juste parce que je résiste pas à l'épilogue, le début de l'épilogue, je crois que tu as déjà deviné, la personne qui a écrit cette histoire n'est pas vraiment une baleine. D'ailleurs, ce serait compliqué de taper sur un clavier avec deux grosses nageoires de 4 mètres de long. En fait, c'est moi qui l'ai écrite et je suis une humaine, une zone. ZOM, voilà.
Ah, c'est sympa. Ah, écoutez, c'est... tous ces bouquins, moi, vraiment, c'est votre présélection pour le prix Gulli qui sera remis le 25 septembre, Michel Reza. Mais merci infiniment d'être venu nous parler de ces 6 livres. On pourrait vous écouter des heures, Michel, parce que ça donne envie même aux grands de lire, de lire tous ces romans jeunesse. Je pense que les frangines vont repartir avec quelques-uns. on se reparle le 25 septembre quand on connaîtra le lauréat. Merci infiniment, Michel Reza, d'être passé en direct dans ce studio. Dans un instant, on continue de parcourir la liste de nos envies avec vos et nos coups de cœur écran. À tout de suite sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend.
Avec le club de l'été sur Europe 1.
2 heures de direct tous les matins, de 9h à 11h avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. C'est ça le club de l'été, mais le club de l'été ne serait pas un club sans invité. Et ce matin, c'est deux pépettes, comme on dit chez moi, qui nous accompagnent. Anne et Jacinthe, le duo, les frangines sont avec nous. Est-ce que tout va bien ?
Yes,
tout va bien. Jacinthe, et ça c'était la voix de Anne, voilà. Est-ce que les filles, vous regardez encore la télévision ? C'est un objet carré ou rectangle, comme vous voulez, dans lequel il y a des images.
franchement, non. En fait, moi, j'ai jamais trop regardé.
Jacinthe, c'est vrai ?
Non, j'ai jamais eu la télé, en fait.
Même enfant ? Ah oui, c'est
ouais,
vrai ?
Ouais.
Et Anne ?
Et moi, j'avais la télé. Après, je regardais pas beaucoup. Et là, je l'ai plus.
Alors, j'ai quand même cru comprendre que vous aviez adoré une série qui a été diffusée sur TF1, qui s'appelle Une chance de trop,
ah oui,
avec Alexandra Lamy et Pascal Elbé, notamment. C'était l'adaptation d'un roman d'Arlan Coben.
Votre mari a été tué.
Et ma fille ?
Nous ne savons pas où est votre fille. Je te promets que je vais la retrouver.
C'est le problème des bandes annonces.
Je suis là sans savoir si t'aurais toujours envie.
Si tu reviens du flic, tu rentreras.
Un vrai polar qui a été diffusé sur TF1 que vous pouvez revoir sur Netflix parce que Netflix a obtenu un contrat global avec Harlan Coben donc pour toutes ses adaptations et toutes les séries ou les films qu'il réaliserait. Vous vous souvenez pourquoi vous aviez aimé cette série, Anne?
Moi j'avais adoré parce que j'adore les thrillers.
Et oui, ça renvoie un peu à... Vous parlez d'Agatha Christie, mais oui, effectivement, tout ça est cohérent. Ouais.
Et puis, j'ai adoré les acteurs. Tout le casting, Alexandra Lamy, Pascal Elbé et tout, vraiment, j'aime bien. Et en plus, en fait, ça durait... J'aime bien, moi, les films, les trilogies ou alors les mini-séries. Mais les grosses séries, moi, ça me...
Vous n'avez pas regardé Game of Thrones, par exemple?
Ah non, c'est trop long.
C'est trop long. Trop de séries.
Et oui, ça fait trop.
Moi,
du coup,
Il faut apprendre à pas dormir.
C'est chronophage, mais il faut le reconnaître. C'est quand même très, très chronophage. Jacinthe, vous l'aviez vu, Une chance de trop?
Ah oui, je l'ai vu. Ouais. Ouais. Bah, en fait, c'est Nano qui me l'avait conseillé. Ouais. Et c'est plutôt elle, ma référence culturelle. Tu vois, dès qu'il y a un truc cool, elle me...
C'est-à-dire Anne plutôt que nous, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Tout ça va changer.
Non, mais elle est vachement dans cette série, parce qu'elle est même, il y a une vraie intrigue, un vrai suspense.
Ah ouais, elle est ouf. Donc, a priori, vous n'aimez pas trop les séries américaines. En tout cas, vous ne les avez pas citées dans vos coups de cœur.
Moi j'aimais bien, ouais, par exemple Gossip Girl, il y a une période où j'adorais.
Ah oui.
Bon, aujourd'hui je pense que je kifferais plus trop, mais
oui, c'est pour un public un peu plus, ouais, un peu plus
ado,
jeune.
Je sais que j'ai bien aimé.
Ouais, ouais. Prison Break aussi, bonne série. Moi,
ah, Prison Break, très cool aussi.
Voilà. Très classique, mais très bien, très efficace.
Mais... Hélène et les garçons.
Mais trop long. Trop
Hélène et les garçons, ça c'est pour Olivier Pouls. Voilà.
Elles sont beaucoup trop vieilles.
Elles sont
trop jeunes.
Nous on est vieux, c'est ça qu'elles s'en mêlent les pinceaux. Alors de notre côté, petit rappel, il y a quelques jours, nous recevions Jonathan Lambert, le comédien était venu nous présenter notamment la saison 2 de la série Peplum qui est diffusé ce soir sur M6 à 21h. Ne manquez pas ça, plongée hilarante en moins 247 avant Jésus-Christ, avec un empereur totalement idiot incarné par Jonathan Lambert, un empereur qui doit épouser Cléopâtre 9. Cette dernière, elle est un peu nerveuse.
J'ai traversé les déserts, les dangers, les mystères, les forêts, et toi, tu me dis qu'il n'y a pas de pachyderme?
Non, il n'y a pas de pachyderme.
Chie!
C'est pas facile.
Putain, tu sais qu'elle me rappelle quand elle fait ça. Je veux ça. Tu sais qu'elle me rappelle?
Ma femme.
Ta femme. Oh là, la même. C'est la même. Donc t'as la même au boulot et à la maison.
Ah non, moi la mienne, je l'ai vendue.
Ah ouais.
Et je me suis racheté une. Et là, maintenant, je me régale.
Putain, t'as la belle vie.
Je t'offre un verre?
Non, je peux pas, faut que je trouve des tigres.
Bah, tu m'as dit que t'en
avais. Mais j'ai pas de tigres, enfin, je les stocke où? C'est des chiens que j'ai peints. S'il pleut, on est baisés. C'est même pas des chiens errants, dégueulasses.
Peins des chiens, toi.
Bah, les gars, tu me fasses peur.
Ils sont complètement fous, ça s'appelle Peplum et c'est à voir sur M6 à partir de 21h. Les deux épisodes de cette deuxième saison en fait sont diffusés puisque c'est deux fois 52 minutes. Je vous le recommande vraiment. Les Frangines, est-ce que YouTube a été très important pour le début de votre carrière et pour encore aujourd'hui pouvoir attirer un nouveau public?
Franchement oui, parce que c'est là qu'on a lancé le premier titre, donc Demain dès l'aube. On avait fait un crowdfunding sur Ulule et on a lancé cette musique sur YouTube, et le lendemain quand on a vu 5000 vues, ça nous paraissait déjà énorme. On a pris la grosse tête et tout direct.
Et là vous êtes à combien?
Et
vous
donc avez là on est, alors attends, Demain dès l'aube, on est au moins à 1 million. Est-ce qu'on a
ouais. Et, 1 million et le cri d'Alep? Le cri d'Alep, moi je pense que vous avez, il y a un titre où vous dépassez les 2 millions.
Ouais.
Alors c'est peut-être le titre qu'on a entendu tout à l'heure.
Ah oui, donnez-moi. Peut-être Si j'osais aussi.
Si j'osais aussi.
Mais d'ailleurs, peut-être Demain dès l'aube, hein. C'est bien pas qu'on a.
Non, Demain dès l'aube, je pense qu'il est haut.
Ouais. Donc, alors, en
tout
cas,
je regardais pas tous les jours.
J'allais dire, vous n'avez pas
regardé
tous les jours.
Au début, regardez.
Ben bah, oui, c'est
on
normal.
Était complètement accro. Tous les jours, on regardait ça avec monté de 100 vues.
Toutes les secondes, actualisation.
On allait voir sur tous les ordis pour
voir. 2,6 millions, me dit-on dans l'oreillette.
Ah,
c'est pas mal, hein, pour donnez-moi. 2 millions, un peu plus de 2 millions.
Ah, pour donnez-moi,
oui. Exactement. Sur YouTube, il y a un autre duo qui me fait hurler de rire et que je voulais vous présenter. Alors, elles sont pas sœurs non plus, mais elles sont sœurs d'humour. C'est deux filles, Camille et Alison. Elles forment la chaîne sur YouTube qui s'appelle Glamouze. Leur credo, en fait, c'est se moquer des vidéos comme les tutos beauté, par exemple. Ou encore ces vidéos, vous savez, dans lesquelles des youtubeuses doivent répondre à une série de questions qui ne sont pas forcément très intelligentes. L'exercice vu par Alison et Camille, ça donne ça.
Et vous comptez occuper votre temps comment?
Je sais pas, j'ai envie de partir autour du monde, mais avec un blog et une mission humanitaire, tu vois, pour justifier de faire un Ulule.
Quel genre de mission humanitaire?
Je sais pas trop. Trouver la source d'un village en Afrique... Ou leur apporter un dico, tu vois. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai pas encore checké vraiment les réseaux sur Internet.
Ah, c'est pas mal. Elles sont
extraordinaires. Il y a près de 90 000 personnes qui suivent les aventures de Camille Fievé et Alison Chassagne. C'est un vent de fraîcheur sur YouTube avec une série de personnages complètement névrosés. Et puis, en fait, surtout derrière l'humour se cache quand même une vision critique de cet univers numérique qui se regarde facilement le nombril, il faut le reconnaître. Ouais. Glamouze est à découvrir sur YouTube. Et j'ai pris cet extrait parce que ça parle de voyage humanitaire. Et il y en a une de vous deux, si je ne me trompe pas, c'est Jacinthe, qui a fait du voyage humanitaire.
Ouais, Nano aussi.
On en a fait toutes les deux.
Mmh. Ah oui, c'est vrai qu'après c'était mes études.
Vous étiez au Liban. Au Liban,
c'était
au Liban. Pour notamment auprès des réfugiés syriens.
C'est ça.
Et Jacinthe, vous avez fait quoi?
Et moi, commission humanitaire, c'était donc de solidarité, c'était avec SOS Village d'Enfants, une ONG qui est implantée un peu partout dans le monde, et là c'était à Madagascar.
D'accord.
Et puis, j'étais en mission dans le sud, dans la brousse, en pleine brousse, c'était trop bien.
Et Anne?
J'allais dire, c'est vrai que toutes les deux, juste après notre bac, on était partis en Roumanie faire
ensemble
un séjour humanitaire. Et je pense que ça a pas mal marqué aussi notre duo, notre amitié d'abord, et puis la musique aussi après.
Et avec une envie d'y retourner, de vous impliquer encore, de vous engager en tout cas dans ce type de mission.
Ouais, carrément.
La solidarité, toi, c'est en général.
C'est ce que tu voulais faire à la base.
Ouais, c'était ce que je voulais faire de ma vie.
Jacinthe,
un jour. Ouais. Voilà. Mais même en France, enfin, il y a plein de trucs à faire, quoi.
Bien sûr.
Et on a, en France aussi, on s'est un peu bougé. On a, avec les personnes de la rue, on a fait un truc ensemble. On a animé une chorale pour des femmes victimes de traite. Moi, j'étais un peu en prison.
Et alors, ça me fait penser que dans votre portrait sonore, tout à l'heure, on n'a pas parlé de Vianney. Alors, je pense à Vianney parce que lui aussi est très engagé, notamment auprès des associations pour les personnes qui sont dans la rue. Mmh. Ça a été une sorte de grand parrain pour vous, Vianney.
Oui,
bien sûr.
Ouais.
En fait, on l'a rencontré il y a 5 ans. C'était ça. Au début, c'était vraiment un gars qui nous a donné des conseils.
Peut-être moins quand même.
Si, ça fait 5 ans, je pense. Hein. En vrai, on ne se rend pas compte, le temps passe très vite.
Oui, ça passe vite, oui.
Et non, et en fait, là, l'année dernière, du coup, c'était cette année, en septembre, là, notre producteur nous a soufflé l'idée de faire donc une collaboration avec lui. Et il a répondu par l'affirmative en disant que ça le disait bien, quoi. Et donc, ça s'est fait assez naturellement, très intuitivement. Et on s'est retrouvés une après-midi, une journée, tous les trois. Et puis, au bout de la journée, on avait le titre.
C'est pas mal, ça, comme idée. Hein, parce que nous, quand on se retrouve, Olivier Pousse et Victor, ça donne pas de chanson.
Non,
on mange,
ça donne
d'autres choses.
Voilà. Mais on chante, on karaoké, c'est tout.
Ça donne quand même le club de l'été.
C'est très juste. C'est très juste.
Avec les frangines.
Avec les frangines. Exactement, Jacinthe. On est tous à l'unisson, c'est parfait. Dans un instant, il y a une autre nana qui déboule, c'est Elsa Lévy. Elle débarque dans le studio avec une revue de presse déjantée et féminine. Olivier, vous allez être au top. À tout de suite sur Europe 1.
De mieux en mieux.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Il est 9h53 sur Europe 1 et jusqu'à 11h, c'est votre club de l'été avec nos invités, les Frangines, soit Anne et Jacinthe, chanteuses et qui, avec leur pêche, méritent la carte de membre du club à vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Lisprésac et Olivier Pousse.
Membre accepté.
Oui,
membre
accepté. On pourra leur dessiner. Voilà. Oui.
Les filles, je vous présente Elsa Lévy, encore une super nana qui adore se plonger dans les magazines féminins. Quoi de neuf, Elsa, du côté de la presse féminine?
Oui, bonjour. Alors, j'ai remarqué que...
Et c'est mieux quand vous avez...
Voilà. Ce
mais oui, mais non, c'est parce que c'est bon, pas grave, c'est pas grave, allez-y.
Alors, j'ai remarqué que dans cette émission, on parle musique, mais surtout cuisine et nourriture.
C'est vrai.
Ici, on n'a pas peur de parler tête de veau à 7h du mat. Du coup, j'ai pensé à vous en lisant un article dans le magazine Glamour qui explique que ce qu'on met dans nos assiettes se retrouve de plus en plus dans les cosmétiques.
Aïe.
En parfumerie, jusqu'à présent, on avait plutôt des odeurs sucrées comme la vanille et plutôt fruitées comme le pamplemousse.
Mais ça... C'était avant.
Ouais. Maintenant, on est dans le salé et dans les légumes. Mais par exemple, la marque Honoré des Prés a créé le parfum Love les Carottes, ce qui est une façon de bien sentir le marché. Mais on a aussi l'eau de toilette Bois Farine de l'artisan parfumeur, qui est un parfum entre le biscuit salé et la cacahuète. Alors vivement les chips et le saucisson à l'ail.
L'andouillette.
Oui, l'andouillette.
Ça pourrait faire un bon parfum très masculin.
Ouais, ça peut être pas mal aussi.
En tout cas, je me dis que le parfumeur a peut-être eu sa fulgurance en plein apéro. Ce nez avait sûrement 2-3 verres dans le nez.
Ah, elle était facile. Elle est bien. Oui. Elle est bien. On a d'autres senteurs qui proviennent de l'apéro cosmétique.
J'ai lu qu'on va également trouver des notes de bretzel ou encore de bacon, et on trouvera aussi des notes de petits pois. Bref, ça sent la fin des haricots.
Et là, pardon, mais Elsa, c'est quoi l'intérêt de toutes ces innovations, en fait?
Alors, malgré les apparences, tout ceci a du sens. L'article explique que ce nouvel engouement pour les légumes est né d'un souci écologique. L'idée est de trouver de la valeur dans tout, même dans nos déchets. Bon, pour les bretzels et le bacon, On ne nous l'explique pas. Dans Madame Figaro, on appelle ça la cosméto-rurale. Et on a, pour exemple, une crème hydratante à la carotte violette ou, pour aller plus loin, un masque au potimarron. On va même très loin dans le potager puisqu'on crée également des produits à base de bave d'escargot, oui. La bave qui serait pleine d'actifs régénérants et antibactériens. Après, si on n'a pas envie de se tartiner la figure avec des glaviots et le compost du potager, on peut se contenter de porter des boucles d'oreilles de la collection Organique Tomato de chez Alexandra Hakim. Elles sont conçues à partir de tiges de tomates cerises et couvertes d'or et valent en moyenne 300 $. Mais là, je ne sais plus dans quel degré d'écologie on se trouve.
Voilà, et Olivier est affligé à côté de vous.
Ça me fait penser à un de mes fils, il aimait tellement les frites quand il était petit qu'il m'avait dit « Papa, il faudrait qu'on fasse un parfum à la frite, que ça marche. » En fait, il était visionnaire.
Ben ouais. Et leur côté prêt-à-porter aussi, hein, les légumes et les fruits sont là.
Kenzo a sorti une collection cette année autour de gros poivrons et de tomates et Dolce & Gabbana. Ah oui, et ben voilà, on les a dans Kenzo.
Il y avait une robe en jambon qui avait été...
Ça c'était Lady Gaga. Ouais, non mais ça c'est encore autre chose.
Oui, c'est vrai.
Et Dolce & Gabbana,
eux ont eu un faible pour les piments en conserve. Et c'est pas parce que c'est de la haute couture qu'on se retrouvera pas habillé comme un oignon. Je me demande, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. C'est bien ça le concept, parce que j'ai l'impression qu'on va en bouffer toute la journée. Au point où j'écrivais cette chronique sur PC pour éviter Apple, je me suis débarrassée de mon BlackBerry. J'ai pas Internet grâce à Cerise, ni le téléphone avec Orange.
Salade de fruits.
En grande forme, Elsa.
Ah ouais, en grande forme.
Vous connaissez les musiques d'Eva, ça va pas du tout, là.
En tout cas, c'est vrai. En tout cas, c'est peut-être ambiance fruits et légumes verts. Et pourtant, tout ceci n'est pas très green. En effet, je lisais dans Cosmopolitan que l'industrie de la mode pollue plus que le trafic aérien et maritime réunis. Je comprends mieux pourquoi lorsque je lis dans Prima que 70% des vêtements ne sont jamais portés. Ce qui est sûr, c'est que ce souci éco-friendly revient en permanence dans les magazines. D'ailleurs, Prima écrit « 21 millions d'arbres par an sont abattus en France pour imprimer 21 milliards de tracts publicitaires. Ce gâchis cesserait si les enseignes ne produisaient plus de catalogues en papier. À quand l'utilisation exclusive de supports numériques ?» Ah bah oui, du coup, tiens, je me demande... pour tous ces magazines qui contiennent 90% de publicité, c'est combien de forêts ?
Et voilà, exactement. Ouais. Merci beaucoup Elsa pour cette revue de presse engagée.
Et là, vous n'êtes pas du tout habillée en légumes.
Je la sentais bien. Non, pas du tout.
Mais non, vous avez quoi sur vous ? C'est un petit chemisier vert, mais il n'y a pas de légumes. Il n'y a pas de fruits et légumes, Olivier.
Il en voit partout.
Non, mais elle aurait pu pousser la chronique jusqu'à... Il voit
encore des poivrons.
Elle dément cette tendance-là. Pas non plus mettre dessus, voilà. Est-ce que Anne et Jacinthe, on a bien compris. En plus, vous êtes en tournée, donc c'est un peu compliqué. Vous manquez sans doute de temps, mais est-ce que vous lisez la presse féminine ? Ou c'est pas du tout votre truc ? Ou Jacinthe, grosse grimace. On peut le dire, grosse grimace, ouais. Non, j'ai l'impression que c'est non.
Non, j'avoue. Attends, on a acheté un truc récemment qu'on a regardé, là, dans le train.
Ah bon ? Si.
Ça vous a marqué, en tout cas.
Ça vous a marqué, ouais, non.
J'avoue, je ne me rappelle pas. On a acheté un journal, mais je ne sais plus ce que c'est. Enfin, non, on n'est pas très... pour résumer, on n'est pas très...
Ouais, pas
Nano, tu l'as un peu ?
Non.
Moi, je lis beaucoup, mais pas de magazine.
Non. Alors, le dernier roman qui vous a marqué, Anne ?
Roman. Alors là, je suis en train de lire. Alors, c'est quoi ? C'est quand les lions mangeront de la salade verte ?
Oui.
Ouais. Très sympa.
Très sympa.
Exactement. C'est un petit roman d'été, quoi.
Ouais, c'est bien.
Ouais, c'est cool.
C'est bien, c'est frais. Vous
avez raison. On est encore dans les légumes.
On est encore dans les légumes, c'est vrai. C'est vrai, on est encore dans les légumes. Pour la deuxième partie d'émission, on a voulu vous faire plaisir à toutes les deux. Donc, ça va être visite patrimoniale du côté d'Angers pour Jacinthe et gourmandise du Pays Basque pour Anne.
À coup.
Vous êtes d'accord ?
Ah ouais.
Il y a une petite surprise aussi pour vous. Et puis, vous nous raconterez aussi votre façon de voyager. Départ pour une double destination ce matin. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
C'est la deuxième heure de ce club de l'été d'Europe 1, toujours en direct et jusqu'à 11h avec au menu de la culture, des balades et des gourmandises qui mettent en appétit. N'hésitez pas à réagir sur Twitter via le hashtag Europe 1, notamment si vous avez un message ou une question pour nos deux invités, Anne et Jacinthe, qui forment le duo de chanteuses Les Frangines et qui viennent de sortir leur album éponyme. Je sais que vous adorez ce mot éponyme. Ça fait très classe. Lise, c'est ça qu'on part où ce matin ?
On va aller à une demi-heure de Saumur, dans le Maine-et-Loire, hein, une région que connaît Jacinthe. On va aller voir le village troglodyte de Rochemenier.
Et Olivier, vous nous proposez de partir du côté du Pays Basque pour quelques nourritures que j'imagine très saines.
Bien sûr, on va parler charcuterie du Pays Basque avec le grand spécialiste.
Un grand spécialiste.
Et puis je vous proposerai une petite recette de tapas en fin d'émission. Je vous apprendrai à faire la tortilla, ça vous dit.
Super.
Et puis un petit vrai-faux, on va parler de sel. Est-ce que le sel est un exhausteur de goût comme on le prétend et comme on nous le vend depuis très longtemps ?
Eh bien, réponse à la fin de l'émission, puis il y aura une petite surprise entre-temps.
9h, 11h.
On adore les surprises.
Le club de l'été sur Europe 1
Eva Rock.
La surprise, c'est que vous allez chanter, en fait. C'était ça. Non, non, il y a autre chose aussi. Pour débuter cette deuxième heure, un peu de musique avec trois chansons. Vous allez me dire, Jacinthe et Anne, à qui j'ai pensé en la programmant. Est-ce que c'est à vous, Anne, que j'ai pensé, ou est-ce que c'est à
drôle,
vous,
Jacinthe? Ah, c'est drôle,
yes. D'accord. Okay. On commence avec une chanson de 1969.
Oh, Champs-Élysées. Non, mais j'adore aussi, moi.
Mais Jacinthe, je... ne me criez pas dessus.
Parce que pour toutes les réponses, toutes les deux vont dire mais oui. Oui.
A priori, ça plaît plus à Anne quand même.
Ouais, mais j'adore Joe Dassin.
C'est dans vos répertoires, ça,
ouais,
Joe Dassin.
Ouais. Allez, je le dis pas.
Bah non, non.
Une chanson non, un peu plus ancienne, 1967.
C'est des trompes.
Et c'est pour qui ça?
Ah, c'est pour moi,
Jacinthe. Bon, alors pour finir, une très très vieille chanson. Je ne sais pas si c'est pour Anne ou pour Jacinthe. On est d'accord?
Ou peut-être pour les deux.
Un petit coup de miel, les yeux de nos grands-mères. C'est pas évidemment vous l'avez, vous avez reconnu à nos souvenirs, trois cafés gourmands, qui n'est pas du tout une vieille chanson. Pourquoi j'ai décidé de passer trois cafés gourmands?
Bah oui, c'est ce qu'on a fait la première partie. Ouais.
Ça a été un grand moment pour vous, hein?
Bah franchement, oui. L'année dernière, on a fait donc les premières parties de Claudio.
Et Claudio Capéo,
oui. Pardon, oui, de Claudio. Ouais. De Claudio Capéo. Et cette année, les trois cafés. Et c'est une super expérience. Et c'est génial. Un super groupe. Mmh. On a vraiment fuité. Enfin, ça a vraiment fuité. Et,
Et
c'est une super expérience.
Avec les cafés et avec les cafés gourmands. Oui, trois cafés gourmands.
Ben c'est franchement, c'est des. C'est toute l'équipe est hyper accessible. Ils sont super simples. C'est une bonne ambiance.
Leur public est hyper cool.
Le public est trop sympa. Enfin, franchement, c'était c'était des bons moments et. Et on sent que c'est des gens qui sont restés simples, attachés à leurs valeurs. Ouais.
Eux-mêmes, quoi.
Ouais, c'était super agréable.
Vous vous retrouvez dans toutes ces valeurs-là,
en fait. Ouais.
Alors, vous, avec Claudio Capéo, vous faites partie du même, j'allais dire, cheptel d'artistes qui sont sous le même label,
sur
la même production. Il y a Zaz également dans cette production. Et c'est vrai qu'on reconnaît un peu des sonorités. On a l'impression qu'il y a une sorte d'univers entre ces artistes français. Vous avez l'impression ou c'est
si,
nous
le côté
à l'oreille
variété. Si, moi je comprends. Ouais, si,
ouais.
Si.
Je pense que
le côté variété, très chanson française. Oui, c'est vrai qu'on est là-dedans. Hein. Oui, beaucoup plus que dans la pop urbaine. Un peu urbaine, moderne, comme je sais pas. C'est vrai qu'il y a un peu deux types, je pense, de familles d'artistes, comme Angèle, Clara Luciani.
Exactement. Ouais. Alors après, j'ai cru comprendre quand même que vous aviez des goûts musicaux très éclectiques. Parce que c'était un peu des blagounettes là quand je vous ai passé Joe Dassin et Jacques Dutronc, que vous adorez. Je sais que vous les avez dans vos playlists.
C'est ce qu'on écoutait quand on était. Voilà.
Oui, mais je sais aussi que vous écoutez Boulevard Désert. Enfin, il y a aussi, des groupes un peu plus modernes.
On est
d'accord.
Bien sûr, c'est clair.
On n'est pas resté bloqué aux années 70.
Non, on n'est pas resté bloqué. Non, on écoute franchement de tout.
On essaie d'écouter de tout. Hier, on parlait des balmusettes, par exemple, les guinguettes, etc. Pardon,
oui, j'adore.
Vous adorez.
Bien sûr.
Ça m'étonne pas avec les votre petit ukulélé, tout ça. Ce que je vous propose, on va continuer nos pérégrinations culturelles. Vous allez en même temps vous préparer pour la suite de l'émission. Et puis, on va avoir la chance de vous entendre en live. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Et nous sommes toujours en direct, il est 10h10, nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec nos deux invités, les bouillonnantes Anne et Jacinthe du groupe Les Frangines.
Qui accordent leur guitare
au moment où on reprend l'antenne, évidemment. Avant d'aller découvrir Angers et avant de vous écouter, surtout les filles, je vous propose de prendre un grand shoot d'infos culturelles grâce à Lise Pressac. Et il ne sera pas question de truffade, parce que direction le bioparc de Douai-la-Fontaine pour commencer, Lise.
Oui, vous connaissez peut-être, Jacinthe, on n'est pas très loin d'Angers.
Douai-la-Fontaine, bien sûr.
Bah oui, comme chaque année, le bioparc invite des artistes nigériens pour un événement intitulé « De la sculpture à la nature ». Alors devant la vallée des rhinocéros noirs, Omar Sékou va sculpter dans des troncs de séquoia de monumentales statues animalières. Ali Boukhari et Sadjo qui travaillent lui le métal, ce sera à proximité du camp des girafes. Il façonne ainsi devant les visiteurs des petites silhouettes d'animaux en laiton, ce sera les mercredis, vendredis et dimanches à 17h. Et les deux artistes proposent également des ateliers d'initiation à la sculpture pour les enfants de 8 à 12 ans. Les lundis et samedis à 11h, c'est atelier modelage de la cire d'abeille et sculpture sur bois tous les mardis et jeudis à 16h. Les statuettes en laiton créées par Delo seront vendues tout l'été au profit de l'association pour la
sauvegarde des girafes du Niger. De la sculpture à la nature, c'est jusqu'au 31 août au bioparc de Douai-la-Fontaine, c'est donc dans le Maine-et-Loire.
Ça donne très très envie. Mmh. Lise, vous nous emmenez maintenant visiter des cabinets de curiosité à Landerneau, dans le Finistère.
Oui, au cœur d'un ancien couvent du XIIe siècle, reconverti en lieu d'exposition depuis 2012, le fonds Hélène et Édouard Leclerc. L'exposition Cabinet de curiosité, comme son nom l'indique, est une sorte de cabinet de curiosité, mais géant, composé de 1500 J'adore pièces. Ça. Elles proviennent toutes des collections privées ou de musées nationaux comme le Muséum National d'Histoire Naturelle, le Musée de la Chasse et de la Nature, et même du génial Musée d'Anatomie de Montpellier dont je vous avais parlé la semaine dernière. Œil démontable, buste de femme à barbe, chimère empaillée, minéraux millénaires, collection de sabliers, tous ces objets étranges sont à voir au fond Hélène et Édouard Leclerc. C'est à Landerneau, dans le Finistère, jusqu'au 3 novembre.
Et puis on finit comme chaque jour avec de la musique. Oui. Là, cette fois-ci, c'est du lyrique à la Belle Île en Mer.
Oui, c'est la 21e édition du festival Lyrique en Mer.
Ah ben non, c'est pas tout à fait ça comme musique, mais bon.
Oui, mais on est à Belle Île, voilà. Qui pense à tous les publics avec une opérette d'André Messager qui s'appelle Passionnément et chantée par un groupe de jeunes artistes. Mais il y aura aussi des leaders allemands et des mélodies françaises avec Mozart, Schubert, Schumann, Wagner. C'est en nocturne à la Citadelle Vauban, le tout interprété par le baryton français Edwin Crossley-Mercer. Et enfin, la pièce maîtresse de cette saison, c'est le chef-d'œuvre de Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor. C'est une pièce qui a pour cadre l'Écosse au XVIIIe siècle. Alors là, je vous fais écouter la voix de la Calas, oui. Je triche un peu, mais c'est pour vous donner une idée de l'œuvre. Ce sera une production maison du Festival de Belle-Île qui est signée de la metteur en scène écossaise Denise Mulholland, les 5, 7, 13 et 16 août à 20h. Et sinon, le Festival Lyrique en Mer, c'est à partir d'aujourd'hui, ce soir, et jusqu'au 16 août à Belle-Île en Mer, dans le Morbihan.
Anne Jacinthe, est-ce que vous avez pris des cours de chant avant de vous lancer
Non, on chantait
à l'école.
Ouais, on chantait un peu. Ouais.
Mais
Non, on n'a pas pris, mais par contre, depuis un an, deux ans, on en prend maintenant.
Et oui, parce que on a beaucoup parlé de votre travail en coopération sur l'écriture et la composition, évidemment. Mmh. Mais sur scène, il faut être à l'unisson. Ça paraît idiot de dire ça, mais, oui. Je pense que ça nécessite un gros travail. Vous avez une coach vocale qui travaille avec vous pour les concerts, notamment.
Alors, je ne suis pas sur les concerts, mais on a eu,
On a pris quelques cours, même avec Angie. Avec Angie et avec, comment elle s'appelle aujourd'hui, Isabelle.
Oui,
Isabelle. En studio aussi, on a pas mal appris à se caler l'une sur l'autre, à être vraiment pro, quoi. Parce qu'avant, on chantait vraiment.
Même pour le souffle, etc. Mais bien sûr. On n'avait pas du tout les bases, quoi.
Les bonnes techniques.
Ouais, pour bien respirer, tout ça.
Et d'ailleurs, on va le constater en live que les cours de chant ont fait leur effet et vous chantez à l'unisson.
Justement, les cours de chant, elle nous disait à chaque fois, il faut faire des gammes, enfin des exercices de vocalise.
Ce que vous n'avez pas fait ce matin.
Ce que l'on n'a pas fait.
On s'est réveillé trop tard.
On vous en tiendra pas rigueur. Parce qu'avant de partir vers Angers, on vous a sous la main, donc on avait très envie que vous nous chantiez un petit titre en live. Je ne sais pas pourquoi je dis un petit titre, c'est un titre. Et puis, comme toute cette belle histoire est quand même, ou ressemble en tout cas à un conte de fées, c'est un des extraits de votre dernier album et ça s'appelle Les Contes de Fées. On vous écoute.
Je voudrais retourner dans mes vieux contes de fées pour y redessiner une terre oubliée.
Je voudrais retrouver tous ces beaux cavaliers, leurs belles dulcinées. Ils avaient l'air de tant s'aimer.
Moi, je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas.
Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir.
Et moi, je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Je serai chevalier,
le lendemain pompier.
Je commanderai une armée,
un jour tyran
et l'autre flanc.
Je jouerai ma vie sur des parties de billes. Je passerai mon temps à charmer les passants.
Mais moi, je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats,
dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas.
Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit, mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir.
Et moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existe pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit, mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir.
Et moi je veux croire à mes histoires,
partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs
de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit, mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir.
Et moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit, mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir.
Ah ouais, ouais, carrément, ouais.
On a complètement, improvisé.
On a un peu improvisé un truc.
Il y avait un petit morceau de trompette
qu'on a mis. Mais c'était absolument formidable.
La trompette, je sais pas qui en aurait joué.
Voilà.
C'est moi,
c'est Jacinthe.
Vous avez pas eu la démo.
Peut-être que tu peux faire une mini démo.
Faites une mini trompette.
Une petite mini trompette, allez-y.
C'est dommage.
Mais là, de toute façon, j'aurais pas réussi à
monter. On avait parlé de guinguette et tout, fallait y aller, quoi.
Mais merci infiniment. Alors d'abord, vous êtes bien à l'unisson, vous avez chanté juste, vous étiez stressée à l'idée de ne pas avoir chauffé votre voix juste avant ce morceau. Merci infiniment. Vraiment, on sent que vous prenez énormément de plaisir à chanter. Je conseille vraiment aux auditeurs de regarder cette séquence en replay sur europe1.fr parce que vous avez un sourire jusqu'aux oreilles. C'est un vrai plaisir de chanter. J'ai l'impression, même devant trois auditeurs que nous sommes.
Bah oui, ça fait trop plaisir.
Mais ils sont très nombreux derrière la radio. Comment ça se répartit, la composition des chansons? Est-ce qu'il y en a une qui fait les textes, l'autre les musiques, chacun
On veut toutes les deux. En fait, on écrit toutes les deux et on compose toutes les deux. Oui, c'est moi.
Oui, pardon, c'est parce que pour expliquer aux auditeurs qui parlent, en fait, je suis désolée.
Non, c'est normal. Et du coup, mais par contre, c'est le plus souvent, c'est indépendamment l'une de l'autre, comme c'est très personnel et... Et assez, c'est des, vraiment des moments.
Il y a des moments, quoi.
Des moments, des situations, ouais. Des événements.
Mais au bout du compte, vous arrivez à vous retrouver quand même à travers chaque chanson que l'une et l'autre écrit.
Oui, parce qu'en plus, chaque chanson prend quand même une tournure différente.
Que l'autre apporte une seconde voix, des instruments en plus, on réfléchit après.
La trompette.
Non, et puis, en plus, en fait, on en écrit quand même beaucoup, beaucoup, toutes les deux. C'est vrai qu'on a. Alors, il y en a qui sont nuls, hein, mais on écrit beaucoup, beaucoup. Et du coup, quand on se les fait et qu'on se les propose, on prend vraiment celles qui nous plaisent à toutes
les deux. C'est un premier filtre.
Donc l'autre, ouais, carrément. Donc si on n'aime pas une des chansons, on va dire non, celle-là, je la sens pas. Il faut aussi le sentir pour bien la chanter, se l'approprier. Et
ça
tout.
Veut dire que vous avez déjà un deuxième album qui est prêt, en fait.
On en a 5.
C'est vrai qu'on a beaucoup. Depuis qu'on a 18 ans, on écrit. Du coup, on a beaucoup, beaucoup de chansons.
Parce que les titres qu'on retrouve sur ce premier album, donc, qui s'appelle Les Frangines, c'est des chansons que vous aviez écrites il y a déjà plusieurs années aussi.
Ça dépend.
Il y en a. Ouais. Il y en a des plus récentes.
Il y en a des plus récentes, ouais. Non, c'est vrai mais on a dû faire une grosse sélection. Nous, on voulait en mettre plein et tout.
Déjà, c'est un triple album.
Il nous dit non, on va commencer tout tranquille.
Merci infiniment pour ce joli cadeau que vous nous avez fait en direct sur Europe 1. Dans un instant, on va changer d'univers. Départ pour les alentours d'Angers, dans un drôle de village. Et ça, c'est grâce à Jacinthe. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1.
Il est 10h22 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1 pour ce club de l'été. Vous êtes les invités de ce club matinal et estival. Vous êtes les bienvenus tous les jours de 9h à 11h. On attend vos remarques, vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1, notamment pour nos invités Anne et Jacinthe du duo Les Frangines. Jacinthe, grâce à vous, départ pour Angers. Vous êtes attachée à ce coin de France ? Attendez, on va vous brancher votre micro. C'est mieux.
Pourquoi m'a-t-on coupé ?
Mais parce qu'on n'avait plus envie de vous entendre.
Et puis là,
ça y est, on a encore envie de vous entendre. vous êtes attachée encore à cette région d'Angers ?
J'aime beaucoup les bords de Loire, en fait, plus généralement.
D'accord.
Si je devais choisir une région, je trouve que c'est très apaisant. Y a une vraie sérénité qui se dégage des bords de Loire. J'aime bien, c'est assez sauvage encore.
Lise va nous proposer une visite totalement atypique.
Impromptu.
Pourquoi vous me regardez avec des grands yeux comme ça?
Non, c'est pas des grands yeux, mais décrivez l'endroit où on va, c'est absolument extraordinaire.
On va dans un village troglodytique, c'est à Rochemenny, on est à une demi-heure de Saumur, donc dans le Maine-et-Loire. Un village composé de 40 fermes renfermant 200 caves, c'est le site le plus complet de la région. Nous sommes en ligne avec Frédéric Marteau, qui est l'un des gérants de ce site. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous faire la visite guidée? Est-ce que vous êtes dans une grotte, Frédéric? Est-ce qu'on vous entend bizarrement?
Alors, on n'est pas dans les grottes du soir au matin. Hein.
Obé.
Et effectivement, là, ce qu'on présente sur le site de visite, c'est une partie du village. Vous parliez de 40 fermes, ça c'est Rochemenny totalement.
Oui.
Et en fait, là, dans la partie musée, on présente une partie du village, deux anciennes fermes troglodytiques. Ça fait quand même 20 salles réparties sur 1 hectare. Il faut compter une heure et demie, voire 2 heures de visite.
Ah oui, c'est quand même conséquent.
Oui. Et est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ça ressemble? Parce que moi, j'ai eu la chance de voir les photos, en l'occurrence, et puis j'avais eu la chance de visiter d'autres villages troglodytes. Mais pour expliquer aux auditeurs, c'est quoi? C'est creusé dans la roche, c'est ça?
Alors oui, en fait, tout a été creusé. Ici, la particularité, c'est qu'on est perdu dans la campagne, donc on est dans la plaine. Donc en fait, à partir de la plaine, au Moyen-Âge, on est à peu près, enfin, on est dans une ancienne carrière, ce qui veut dire que la carrière a été creusée à même la campagne, et cette carrière, en fait, devient une cuvette d'une profondeur de 5 à 10 mètres en dessous du niveau de la plaine, et autour de cette cuvette, en fait, ont été creusés les différents souterrains à l'horizontale pour créer ces habitations. Donc, on est totalement dans la roche. Ici, on est dans des fermes, donc on a des pièces d'habitation pour les animaux et pour les habitants, sans oublier la cave à vin, bien sûr.
Olivier Olivier Pouls, là.
Et Frédéric, qu'est-ce qui explique cette installation précisément ici, dans ce village?
Alors précisément, c'est qu'on a une roche qui se prête au creusement, c'est facile à creuser. La roche ici, elle s'appelle le phalin. Et le phalin, c'est une roche d'il y a 11 millions d'années à peu près, ça ressemble à du sable. Ce qui veut dire que je suppose que tout le monde a joué dans du sable, il y a fut un temps, hein.
Oui,
il y a des châteaux.
Il n'y a pas longtemps.
C'est pareil, ça se passe, se creuse très facilement. Donc le terrain s'y prête très facilement. Et puis quand on a une maison sous la terre, au Moyen-Âge, en fait, c'est une maison qui coûte pas cher. Ce qui veut dire que quand on creuse, eh bien, on a directement sa maison creusée, on a les murs, on a le toit qui est totalement sous la terre. Donc on n'a pas besoin de créer de toiture. Ça coûte pas cher. Et puis les murs, c'est directement les murs du trou. Enfin, c'est directement le trou qu'on a creusé. Donc, pas besoin d'acheter des blocs pour faire les murs. Donc, c'est avant tout économique. Et puis, à un moment donné, ici, on a pu avoir quelques chahuts, on va dire, dans les campagnes, où il valait mieux vivre sous
caché,
la terre,
oui,
pour être à l'abri des événements qui pouvaient se passer à l'extérieur.
Frédéric Marteau, on est bien d'accord, parce que vous parliez des châteaux de sable qu'on fait en bord de mer. J'espère que vos maisons troglodytes, elles sont beaucoup plus solides que le château que je fais, moi, en été. On est d'accord?
Alors oui, elles sont quand même beaucoup plus solides. On a quand même 11 millions d'années derrière nous.
Ah oui.
C'est vrai que dès qu'on touche, en fait, ça s'effrite très facilement. Donc c'est vrai qu'on avertit les visiteurs de pas gratter la roche, et d'ailleurs,
oui,
à cet effet, on a mis une bassine où les gens peuvent se défouler pour avoir cet effet tactile de ce sable sous les doigts, quoi.
Olivier Pouls?
Alors, c'est très pratique parce qu'en plus, il y a une température constante, ouais, toujours dans ces endroits. Je crois qu'il y en a pas mal d'ailleurs qui servent aujourd'hui ou de champignonnières ou, comme vous le disiez, de cave à vin, des vignerons qui les utilisent pour élever leur vin.
Alors oui, effectivement, dans le Val-de-Loire, donc vous disiez qu'on n'était pas très loin de Angers, Saumur, ça c'est totalement vrai. Donc là, je vous parlais de la roche de phalin qu'on a sur le village. Et on a une autre roche que vous connaissez.
C'est les tuffeaux.
C'est le tuffeau avec lequel on a fait pas mal de châteaux et de cathédrales ici dans ce Val-de-Loire. Et dans ces anciennes carrières de tuffeaux, effectivement, on a des champignonnières et on a pas mal de caves à vin. On a plusieurs milliers de kilomètres comme ça dans la région d'anciennes carrières qui servent à des fins économiques, pour des hôtels, pour des gîtes, pour des musées tels que nous. Enfin voilà, il y en a pour tous les goûts.
Je pense qu'Olivier est déjà en train de prévoir son voyage.
C'est bon pour la canicule en plus.
Et oui, Jacinthe nous dit c'est bon pour la canicule. C'est vrai, quand il fait très chaud, c'est la visite idéale qu'il faut faire avec les enfants.
C'est ça.
Alors nous, on avait uniquement 25 degrés de différence avec l'extérieur. Dans les souterrains, on avait quoi, 15 degrés. À l'extérieur, on avait 40 degrés, un petit peu comme partout. Donc 25 degrés de différence,
c'est quand même plutôt
très très agréable.
Vous avez dormi dedans?
Alors non, on ne dort pas dedans, mais en journée, alors non, ce n'est pas un lieu d'habitation pour nous, mais c'est vrai qu'en journée, on emmène les visiteurs directement sous la terre pour faire les visites, et personne ne se fait prier.
Oui, je comprends bien. Merci infiniment Frédéric Marteau d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1, et puis pour cette visite guidée. Je rappelle que vous êtes un des gérants de ce site hors du monde, et qu'on imagine très agréable à visiter, notamment en été, et on va venir vous voir. Merci infiniment.
Merci, Frédéric.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toutes les infos, elles sont à retrouver sur le site d'Europe 1. Élise, vous nous postez tout ça sur votre compte Twitter avec le hashtag Europe 1, ça donne envie. Hein. Je ne sais pas vous, Jacinthe et Anne, mais voilà. Olivier Pouls, côté gastronomie, on va tenter de faire plaisir à Anne cette fois-ci. On va changer de région pour partir dans le Pays Basque.
Eh bien, suivez-moi, on y va dans un instant.
Allez, c'est parti sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1.
C'est la suite du club de l'été en direct avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. Nous sommes très très bien accompagnés ce matin, vous entendez leur voix, avec Anne et Jacinthe du duo Les Frangines. Ça va les filles, toujours tout va bien. Alors, mais attendez, ne dites rien.
Ouais, dites rien.
Parce que je sais que la surprise est rentrée dans le studio et que vous savez ce que c'est, mais on va attendre deux secondes. Est-ce que vous êtes gourmande? Je ne sais même pas pourquoi je pose cette question.
Ah oui, alors là,
sachant qu'elles ont répondu truffade au coup de cœur naturel.
Et dès qu'on parle de nourriture, elles ont les yeux qui pétillent, c'est incroyable.
Ça fait plaisir en même temps. Anne aussi, gourmande aussi.
Alors gourmande.
En ce moment, elle mange rien, je comprends pas.
Ouais, j'avoue, ça fait depuis quelques semaines, pas du tout moins qu'avant. Mais gourmande
peut-être parce
de
que Jacinthe mange pour deux.
Ouais, c'est peut-être pour ça.
Une sorte de couvade à l'envers.
Ouais, exactement. Mais gourmande de trucs assez simples. Enfin, on aime bien les gros trucs un peu très.
Comme la truffade.
Exactement. Alors c'est pas très simple, mais des trucs. Si,
on avait dit pas de pesto.
Pâtes au pesto,
Est-ce qu'une planche de charcuterie, par exemple, ça vous irait bien?
Planche de charcuterie, fromage, enfin, c'est pas des trucs.
C'est pas sympa.
Vous avez faim déjà? Attendez, c'est pas fini.
Oui, parce que si on pense planche de charcuterie, on pense Pays Basque.
Évidemment.
Évidemment, on a la chance d'avoir en ligne avec nous le roi, le champion de la charcuterie du Pays Basque, c'est Pierre Oteiza. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour Pierre.
Ça va? Alors, rien que votre accent me donne faim.
Oui.
Alors, parlez-nous de la spécificité de cette charcuterie du Pays Basque que le monde entier nous envie. Il y a un savoir-faire, il y a une signature qui est la vôtre.
Oui, je suis éleveur artisan dans la vallée des Aludes et on a relancé le porc basque. Le porc basque qui est un petit cochon noir et blanc, facile à repérer dans nos montagnes et avec lequel on a aujourd'hui, on a le quintois qui est né depuis l'AOP qu'on a eu depuis 10 jours.
Depuis 10 jours?
Alors, bravo.
Depuis 10 jours.
Oui, bravo, parce que c'était un long combat de l'obtenir, cette AOP, cette appellation d'origine protégée, donc.
Oui, on a travaillé pendant 16 ans pour avoir l'AOP, et il y a 30 ans maintenant, on a démarré le porc basque, puisqu'il restait 25 bêtes, et voilà, c'est tout un travail d'une poignée d'éleveurs et qui aujourd'hui touche à peu près 240 familles. Autour de ce joli petit cochon.
Voilà, il y a ce petit cochon qui a évidemment ses spécificités. Et puis après, il y a le savoir-faire, c'est-à-dire la transformation de toutes ces charcuteries. On parle beaucoup des jambons espagnols, mais il faut savoir que ce qu'on fait aujourd'hui dans le Pays Basque, franchement, n'a pas à rougir face aux concurrents espagnols.
Oui, aujourd'hui, on a la chance, c'est vrai, d'avoir un jambon qui est typique. Bon, on a au Pays Basque, on a toujours fait du jambon. On a fait du jambon, pourquoi? Parce qu'on avait les cochons, on avait le sel de Bayonne, de Salis, et surtout, on a le climat, on est proche de la mer, et le vent du sud qui nous permet de sécher ces jambons naturellement.
Ça donne envie rien que de vous entendre parler de ça, Pierre. Mais oui, hein.
Oui.
Et alors, il faut bien préciser aussi que ce sont des jambons qui sont très naturels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les cochonneries qu'on trouve dans beaucoup, malheureusement, de jambons industriels.
Oui, bon, c'est des jambons qui sont séchés, qui sont salés au sel sec, avec un peu d'ail, de piment, bien sûr. Et ensuite, ils sont contrôlés jusqu'à 7 mois dans des chambres froides. Et après les 7 mois, ils sont finis à l'air, puisque justement, ce qu'on disait, on a l'humidité de la mer, l'Aïségua, le vent du sud d'Espagne, qui nous permet de sécher ce jambon naturellement.
Bon, Pierre, on a faim, ça y est.
On arrive.
Il y a un peu de poivron aussi dans ces...
Jacinthe, ça va mal finir entre nous. Pierre, on arrive tout de suite, on va prendre un avion. Enfin, c'est pas très bien pour l'empreinte carbone, mais bon.
Je vous prépare une petite planche dans la vallée des Aludes. Oh. Vous êtes tous bienvenus.
Attention,
on pourrait faire le petit circuit autour des petits cochons dans la montagne. Et après, je vous attends pour l'apéro.
Oh là là,
ça fait rêver.
Faut pas nous le dire deux fois.
Et la petite planche.
Ah bah écoutez, c'est merci clair. Infiniment d'avoir été avec nous ce matin.
Voilà. Et bravo merci. À tous et à très bientôt.
Merci. Et bravo pour ce travail, pour l'obtention de cette appellation
oui,
d'origine.
C'est une très très bonne nouvelle pour tous les producteurs qui se battent depuis des années pour l'obtenir, cette AOP. Bravo. Et puis, petite surprise dans ce studio. Alors, la surprise, je vais vous raconter cette histoire. Bonjour d'abord Jean-Baptiste Martinon, vous nous avez rejoint dans ce studio.
Bonjour Eva.
Jean-Baptiste...
Pas trop essoufflé.
Non mais attendez, ne dites rien. Olivier. Il faut que j'explique aux auditeurs. Jean-Baptiste m'a envoyé un mail il y a à peu près 3-4 jours, on est d'accord. Hein. Oui. Vous m'avez raconté ce que vous faites, vous allez nous raconter. Je vous ai dit, venez parce que vous êtes complètement fou et assez fou pour être invité au club de l'été, puisqu'on est quand même tous quand même dans une santé mentale un peu défaillante. Et je vous ai dit, ce jour-là, on reçoit les frangines, soit Anne et Jacinthe, et il s'avère qu'en fait, vous...
Mais c'est hyper drôle.
Vous connaissez.
J'ai entendu tout à l'heure. Course et Baba, je me suis dit, mais c'est forcément JB, je vois pas qui ça peut être d'autre qui fait ça.
Alors,
c'est trop drôle.
On en a reçu des gens dingues hein, dans ce club de l'été, mais alors vous, c'est le summum. On est bien d'accord, vous êtes livreur de métier.
Alors oui, je me suis créé ce métier.
Vous vous êtes créé ce métier. Quel est votre mode de locomotion?
Alors, je cours pour livrer des pâtisseries dans Paris. Au départ, c'était des Baba au rhum, d'où le nom de mon service qui s'appelle Baba au run.
Au run,
c'est
voilà.
Énorme.
Et, alors,
et il est en short dans le studio. Hein. On atteste qu'il arrive
en courant.
Vous êtes venu en courant.
Je suis venu en courant avec des pâtisseries pour vous.
Et alors, vous êtes venu en courant depuis où, en fait, exactement?
Alors, je suis parti de chez moi à Marcadet-Poissonnier, dans le 18e.
On saura son adresse, en plus. Ouais,
10 km, en
général. Oui, c'est ça, 9 km.
9 km.
Je suis passé chez le pâtissier Sébastien Godard, qui est mon partenaire.
Et qui est un excellent pâtissier, en l'occurrence.
Voilà, et puis je suis parti avec mon petit sac isotherme
en combien de temps?
Fallait compter une heure, je pense. Là, j'ai été particulièrement prudent pour être sûr que les pâtisseries arrivent bien.
Eh oui, alors est-ce qu'elles sont arrivées d'abord dans un bon état?
Alors, je peux vous les montrer.
Vérifier.
Oui, vous allez les montrer. Donc, c'est un petit sac isotherme très joli.
Vous les avez pas mangés en cours de route?
Parce que courir avec des babas, c'est risqué quand même.
Déjà, moi, marcher avec un baba, je n'y arrive pas.
J'ai pris un pain au chocolat chez Sébastien Godard. Pour être sûr d'avoir les forces. Pour la
c'est génial. Oh là là. Alors, c'est ça génial. Arrive dans une boîte. Ouais, voilà, vous êtes en train d'ouvrir la boîte et on va voir dans quel état sont les pâtisseries en l'occurrence.
Ah bah, elles sont parfaites.
Elles sont parfaites. C'est
nickel.
Alors qu'il y a une sorte de Paris-Brest. Hein, s'il bouge, c'est la folie. Un éclair au chocolat et un baba au rhum avec la crème dessus qui n'a pas bougé d'un poil.
Non mais ça doit être une technique. Là, courir, comment c'est clair. En amortissant le sac.
Jean-Baptiste, racontez-nous tout. Est-ce que c'est une technique?
Tu peux nous faire
courir.
Une démo là.
Je peux tout à fait faire une démo. J'ai découvert quelque chose, c'est que le bras est un stabilisateur naturel formidable. Et je pense que c'est peut-être la meilleure manière de livrer des pâtisseries, de le faire en courant. Tout simplement parce que quand je cours, le bras va à l'inverse des mouvements de mon corps.
Et ça permet d'équilibrer votre corps.
Alors voilà, c'est juste la dégaine qui est un peu compliquée.
On a très envie de pouvoir courir en fait du coup.
Je pourrais vous faire un tour. Mais en tout cas, il s'avère que ça a fait ses preuves. Et pour vous raconter un peu pourquoi ces trois pâtisseries-là.
Oui.
Je livre que ces trois-là pour l'instant. Donc j'ai démarré avec les baba au rhum.
Pour le jeu de mots.
Pour le jeu de mots, voilà. Je m'étais dit, je vais essayer d'en livrer 100, puis j'en ai livré 100. Et après, je me suis dit, bon... Au bout de 100, vous aurez une petite nouveauté, ce sera les buzz d'éclairs.
Oui.
Donc les éclairs.
Ah, pas mal.
Et après, voilà, j'ai senti que ça commençait un peu à s'essouffler. Les gens aimaient bien, mais ils me disaient, bon, le baba, ça fait un peu débat quand même. Et puis l'éclair, c'est cool, mais on cherche autre chose. Et donc, je me suis dit, je vais créer les aventures Baba Oren.
D'accord.
Et à partir de là, je me suis dit, pour rajouter une nouvelle pâtisserie, je vais raconter une histoire. Et donc, pour rajouter le Paris-Brest à la liste des produits que je propose, je suis tout simplement allé livrer de Paris à Brest.
En vélo, sur
4 jours, voilà, en dormant chez l'habitant le soir, en mettant mes petits Paris-Brest au congélateur pour qu'ils restent à peu près en forme. Bon, je vous rassure, ils sont bien arrivés, ils n'ont pas été mangés, ils sont sous cloche à la mairie de Brest.
Jean-Baptiste, qu'on soit bien d'accord, vous avez perdu un pari, c'était pour le plaisir du jeu de mots Baba Oren. Pourquoi? Quel est l'objectif de tout ça?
À l'origine, ça part d'un déjeuner avec ma sœur Hortense, et on parlait dessert, on parlait jeu de mots, puis moi j'adore la course à pied depuis longtemps.
Et puis je lui ai balancé
cette vanne de Baba Oren. Elle m'a dit, mais toi avec tes idées tu vas jamais au bout, tu fais les trucs, tu balances 15 idées de boîte ou de concept et tu les fais pas. Et je lui ai dit, bah tu vas voir. Et le soir même, je livrais mes deux premiers.
Oui, buvez un verre d'eau.
J'ai eu chaud, il fait chaud en fait.
Il fait chaud, bien sûr.
Vous courez combien de kilomètres par jour comme ça alors?
Alors, je cours pas tous les jours, je fais à peu près 3 sessions de livraison par semaine dans Paris.
C'est dingue.
Et chaque session, c'est entre 12 et 27 bornes pour la plus grande session. C'était pour la fête des mères cette année. J'ai livré des macarons Pierre Hermé d'ailleurs.
Macarons Pierre Hermé pour la fête des mères avec 27 kilomètres dans les jambes.
Voilà.
Mais
sans en manger, hein.
Mais c'est ça.
Alors, c'est pas rare que je repasse à la pâtisserie et que j'en récupère entre deux livraisons parce qu'elles sont quand même vraiment délicieuses.
Mais c'est sérieux tout ça ou c'est un délire de votre part passager le temps que vous arrivez à courir?
Alors, est-ce que tu vas engager des runners?
Et oui, c'est
alors,
ça.
J'ai déjà eu des runners, dont Edouard, que vous connaissez, les frangines.
Ah yes,
j'avais eu une grosse livraison de 60 pâtisseries pour une grosse société à Boulogne.
Oui.
Donc de 60 pâtisseries. Alors là, c'était clairement, je pouvais pas le faire tout seul. Donc j'ai engagé deux runners qui m'avaient contacté, dont mon coloc Edouard. Que je salue d'ailleurs et que je remercie.
Doudis, tu nous écoutes.
Et voilà, et on a fait, on a couru 10 bandes comme ça avec nos 20 pâtisseries chacun. Là pour le coup, on ressemblait à rien.
Mais c'était énorme.
Et puis les pâtisseries sont arrivées là-bas, je crois que c'était pour un séminaire d'entreprise.
Bon, Jean-Baptiste, je vous propose de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce que vous êtes totalement fou. Vous restez avec les frangines parce qu'en plus, vous connaissez. Les filles, elles vont goûter les pâtisseries pour voir si c'est pas en plastique.
Ah ouais, grave.
Et nous, avec Lise, on va les visiter trois jardins, mais on reste tous ensemble et c'est sur Europe 1.
Le club de l'été, 2 heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec les deux experts à la valeur inestimable, Olivier Pouls et Lise Pressac. Et nous sommes très nombreux dans ce studio puisque les frangines Anne et Jacinthe qui sont avec nous, sont restées avec nous évidemment puisqu'on les a attachées à leur siège. Et Jean-Baptiste Martinon qui court en livrant des pâtisseries. Rien que cette phrase me fait rire toute seule, pardon, je suis désolée. Et restez également avec nous. Les filles, Lise, elle nous propose tous les jours 3 découvertes à partir d'une même thématique et aujourd'hui, visite dans 3 jardins extraordinaire. Et on débute notre tour des jardins à Saint-Jean-Cap-Ferrat dans les Alpes-Maritimes.
Oui, pour aller visiter les jardins de la Villa Effrussi de Rothschild, il a fallu 7 ans à Béatrice, la fille du baron et banquier Alphonse de Rothschild, pour faire réaliser ces jardins. Il y en a 8. Un jardin à la française avec ses oliviers centenaires, ses hêtres cyprès, ses pins d'Alep. Il y a un jardin espagnol traversé par un petit canal entouré de plantes et de fleurs rouges. Un jardin florentin avec son allée bordée de cyprès centenaires. Un provençal, Eva, abritant des oliviers et des pins courbés par le vent. Mais aussi un jardin japonais, un jardin exotique, une roseraie et un jardin lapidaire qui est donc agrémenté de statues de gargouilles et vous pourrez ainsi passer d'une ambiance à l'autre. Tous les mardis et jeudis de juillet et d'août, des nocturnes sont organisées dans ces jardins ouverts de 19h30 à minuit. Plusieurs centaines de bougies vont être disposées dans le jardin à la française. Des concerts en duo sont proposés chaque soir. Il y a un duo de saxophones dans le patio illuminé les lundis. Et aujourd'hui, c'est musique andalouse à la guitare classique comme tous les mardis. La soirée coûte 22€ sur place, 18€ en ligne. Alors sinon, l'accès au jardin classique en journée, y compris dans la visite de la ville, c'est 15€ pour les adultes, 10€ pour les moins de 25 ans et c'est gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.
Vous voulez une petite anecdote?
C'est vous
que...
y êtes allé?
Non, c'est pas... Oui, je connais cet endroit, mais par ailleurs, quand il y a des concerts, parfois, ils sont troublés par les grenouilles.
Ah, ouais, ça ajoute des chœurs.
Mais parfois, le musicien est obligé de s'arrêter quand c'est en solo, par exemple. Un concert classique, c'est très compliqué. Ouais. Direction maintenant les jardins du château de Villandry.
Oui, il fait partie des nombreux et célèbres châteaux de la Loire. Érigé pendant la Renaissance, il a toujours été habité depuis. C'est un château sobre, mais avec des jardins incroyables, avec notamment un vrai labyrinthe. C'est le lieu favori des enfants.
Vous pourrez... des grands aussi.
Oui, moi, j'avoue. Vous pouvez vous y perdre et vous amuser à résoudre les énigmes qui y sont dissimulées. Alors, pour les enfants, 8 stations d'interprétation thématique à manipuler sont réparties un peu partout dans le jardin. Elles permettent de mieux comprendre les plantes, les jardins, mais aussi l'évolution de ce site au fil des siècles. Et il y a également un magnifique potager à visiter. Et si vous aimez les ambiances nocturnes, rendez-vous ce vendredi et ce samedi pour la nuit des 1000 feux. Les flammes de 2000 bougies créeront des jeux d'ombre et de lumière sur le château et les jardins. Deux nocturnes exceptionnelles qui sont placées cette année sous le signe de la Renaissance. Et sinon, en journée classique, la visite du château de Villandry et de ses jardins coûte 11€. 7€ si vous voulez voir les jardins seulement.
Ah, ça a l'air très très bien. Et on termine notre tour des jardins au musée Albert Kahn.
Oui, il
est très loin, ça.
C'est pas loin, mais alors bon, pour l'instant, je vous fais un petit suspense, mais c'est pas réouvert. Situé à Boulogne, en région parisienne, ville où ce milliardaire philanthrope s'est installé en 1893, Albert Kahn a fait appel au paysagiste Eugène Denis pour aménager les parcelles de terrain qu'il a en fait acquis au fur et à mesure. En 1920, après avoir réuni au total 23 parcelles, Albert Kahn dispose d'un jardin de près de 4 hectares. C'est un véritable voyage végétal autour du monde. Il y a un jardin français avec une roseraie, un verger, un jardin anglais, il y a une forêt bleue, un marais suivi d'une forêt dorée et d'une prairie. Il y a un village japonais aussi qui est magnifique, et une forêt vosgienne. Dépaysement garanti au cœur de ces jardins qui appartiennent désormais au département des Hauts-de-Seine depuis 1964. Alors je vous fais rêver, mais il faudra encore attendre un peu de temps. Ils ont fermé pour travaux, ils réouvrent le mois prochain, en septembre.
Ça, c'est ça. Vous voyez, c'est comme pour les enfants. Tu veux ce bout de chocolat ? Eh bien, tu l'auras que,
mais
dans,
plus tard,
que dans 15 jours.
Il faut patienter.
C'est horrible. Alors, quand on flâne dans les jardins, on entend des oiseaux.
Oui, Eva.
Et comment on fait pour les reconnaître ?
Eh bien, j'ai une application pour ça. Ça s'appelle Oiseau de Light.
Ah, c'est bien. Hein,
Oiseau de Light, Oiseau de L-I-T-E. Hein, c'est un écrit un peu compliqué. Vous allez pouvoir, grâce à elle, identifier des centaines d'oiseaux en Europe. Vous saurez où trouver certaines espèces, écouter leur chant et regarder à quoi ils ressemblent. Génial. Il y a 300 oiseaux répertoriés. Alors, vous pourrez les identifier notamment par la taille, le plumage, le type de bec ou par leur habitat, s'ils sont en ville, en forêt ou en zone aquatique. Et vous pouvez aussi tester vos connaissances grâce à un quiz. Alors,
oh
je vais tester maintenant.
Oh non.
Bah si, bah forcément.
Ah ouais, moi, j'aime pas non plus.
Alors,
ça.
Un petit test.
Ah, ça, c'est un moineau, c'est sûr.
Ah, c'est non, un petit. En tout cas, il est petit.
Il est petit. C'est un merle noir.
Ah, merle noir. D'accord. Vous en avez un autre ?
J'en ai un deuxième.
Il est petit, celui-là aussi, tout petit.
Un petit rossignol.
On le trouve où ? Un regard. C'est une alouette des champs.
Ah. Oh une alouette des champs. Voilà. Et on le trouve dans les champs.
Exactement.
D'accord.
Et vous pouvez faire des petits quiz et vous êtes content quand ça s'affiche en vert.
Des animaux, bah oui. Des oiseaux là.
Ah ouais.
Olivier, c'est génial la vie.
Ah non, c'est hyper cool.
C'est assez compliqué. Hein,
Olivier Pousse, il préfère quand ils sont dans l'assiette.
Il a même pas. Il a même pas tenté.
Elle sait très bien faire la mouette. On peut peut-être avoir une petite.
Vous faites la mouette ?
Non, pas du tout.
Oui, elle fait la mouette.
Non, non, pas du tout.
Si tu fais la mouette.
Non, pas du tout.
Alors, si vous pensez qu'elle ne se disputait jamais, la preuve que si, en fait.
Sur la mouette, apparemment.
Une histoire de mouette. Alors, vous allez retrouver toutes les références de tous les contenus qu'on a évoqués depuis ce matin, 9h, sur le site europe1.fr. Si vous manque une information, on vous le dit tous les jours, mais vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et évidemment, on vous répondra. On attend aussi vos cartes postales, surtout en papier, parce que c'est plus joli. Et puis, Jean-Baptiste, vous nous avez ouvert l'appétit. On va déguster les gâteaux que vous nous avez amenés. Mais Olivier Pouls, il va nous achever en continuant à parler de gourmandise. Mais avant, dernière parenthèse musicale, avec vous les frangines, et un titre qui va très bien à la mentalité des gens de ce club, Si José, sur Europe 1.
Si seulement j'avais pu te dire ce que j'avais sur le cœur, pu tenir les propos qui résonnent à l'intérieur, les mots qu'on chuchote sur le pas d'une porte. Ah, si seulement je m'étais rappelé que la vie n'a pas de temps pour les regrets. Ah, si j'avais l'audace des plus grands combattants, j'aurais conquis ton amour, mon amour, j'aurais fait tout cela et bien plus encore. Je t'aurais dit je t'aime jusqu'aux aurores. J'aurais brisé le verre de mon silence, je l'aurais façonné dans un mur de faïence. Ça paraît si facile, posé sur ce papier, ça paraît. Sur le cœur, pu tenir les propos qui résonnent à l'intérieur, les mots qu'on chuchote sur le pas d'une porte. Depuis tu es parti et je suis restée là, sur le pas de la porte. Tout cela et bien plus encore.
Les frangines en sont et en chair dans ce club de l'été. Dans un instant, dernière séquence de l'émission avec Olivier Pouls sur Europe 1.
Le club de l'été, deux heures de détente ensoleillée sur Europe 1. Le club de l'été, deux heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Dernière séquence de cet Europe 1 Club de l'été, déjà consacrée aux frangines avec Anne-Éja Sainte. Jean-Baptiste Martinon est resté avec nous. Ce garçon a choisi de faire des livraisons de gâteaux en courant. Si, si, je vous assure, c'est vrai. Vous pouvez réécouter l'émission. Vous verrez que je mens pas. Je vous décris juste ce qui se passe dans le studio. Donc, à ma gauche, Anne-Éja Sainte. Anne qui vient de couper les trois gâteaux en cinq parts. Le truc qui ne se fait jamais. Ce qui fait 15 gâteaux. Or, nous sommes 6. Donc, c'est l'angoisse depuis 5 minutes en disant j'ai oublié quelqu'un. Et à ma droite, il y a Jean-Baptiste qui, lui, ne doit pas manger de gâteau parce que sinon vous allez grossir, vous pourrez plus courir. On est d'accord, Jean-Baptiste. Vous étiez en train de nous raconter les prochains défis que vous avez envie de vous lancer. Livrer un Mont Blanc au Mont Blanc.
Au sommet du Mont Blanc. Oui.
Un Pithiviers à Pithiviers.
Des bêtises à Cambrai.
Des bêtises à Cambrai. Et celui qui m'a fait beaucoup rire avec votre skateboard.
Cheesecake.
Voilà.
Cheesecake.
Très stylé.
En skate.
En skate. Voilà. Ouais, quand je dois reconnaître que de tels invités me rassurent sur ma propre santé mentale. Olivier, avant de connaître votre recette du jour, vous nous proposez un fact-checking culinaire. On passe en revue les vrais faux de notre culture gastronomique. Et aujourd'hui, le sel est un exhausteur de goût. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
On en entend souvent parler, en tout cas, on nous dit que le sel a tendance effectivement à augmenter la perception des goûts, que la carotte aurait plus le goût de carotte à partir du moment où on la sale. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Moi, j'ai tendance à dire que c'est faux.
Moi, je pense que c'est faux aussi.
Ouais. Les filles.
Dit comme ça, je pense que c'est faux.
Oui, alors j'aurais dit que c'était vrai. Avant, j'aurais dit que c'était vrai. Et Jean-Baptiste, vous dites
je dirais
quoi?
Je crois que c'est vrai.
Ah. Mais en fait, c'est faux. C'est faux. Le sel n'est pas un exhausteur de goût, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'un exhausteur de goût? C'est un produit naturel ou pas d'ailleurs, qui renforce justement le goût d'un aliment. La pomme a plus le goût de pomme, la carotte a plus le goût de carotte. En fait, quand on utilise du sel, on sale le produit. Et on sait maintenant de manière scientifique qu'on modifie même la perception du goût des aliments. C'est-à-dire que le sel va diminuer la sensation d'amertume et va augmenter la sensation sucrée.
D'accord.
Donc, en réalité, il n'est pas exhausteur du goût d'un produit,
il le modifie.
Et puis aussi, il le sale. Et alors, on sait qu'avec certains capteurs de la langue qui transmettent ensuite les informations au cerveau, eh bien, cette sensation salée, évidemment, est différente, mais ce n'est pas du tout un exhausteur de goût.
On reparlera des goûts demain.
Oui, parce
que
c'est passionnant, il faut déjà s'entendre sur ce qu'est le goût, et notamment, vous savez, les fameuses quatre saveurs, avec la cinquième, l'umami, dont on nous explique depuis longtemps que c'est la base de tout, on verra si c'est vrai ou si c'est faux.
Voilà, vous serez obligé d'écouter l'émission de demain. Ah ben oui, ça vous change, ça vous modifie le goût.
Oui, c'est ça. Et du coup, on met vachement de sel.
Ah bah c'est possible.
Oui, bien
ça,
sûr,
c'est possible.
Parce que les choses paraissent plus fades.
Plus fades, évidemment. Donc, on ne fume pas.
Bien sûr. Ouais.
Alors, Anne-Éja Sainte, on finit toujours l'émission avec la recette d'Olivier Pouls. Et cette semaine, il nous fait plein de petites tapas. Et aujourd'hui, c'est ça.
Amori tortilla.
J'aime beaucoup cette chanson. Voilà, je me suis bien cassé la tête.
Il y a une chanson sur la tortilla.
Et la chanson est hilarante. Est-ce que votre recette est hilarante?
Oui. On n'aura donc pas les poivrons, ça on l'a compris depuis maintenant deux heures.
Vous en avez pas,
vous les aurez demain.
Mais elle s'y est engagée, Olivier.
On vérifiera. Et je ne vais pas un texto à 7h50 en disant que j'ai pas eu le temps.
Je précise que c'est vous qui m'envoyez un texto. Et comme je suis polie, je réponds. Faites-nous la recette de la tortilla, s'il vous plaît, Olivier Pouls.
Alors, la tortilla, c'est un des grands classiques de la cuisine espagnole et des bars à tapas. Elle se mange chaude, elle se mange froide. C'est très facile à faire des tortillas. Il vous faut des pommes de terre, il vous faut des œufs, il faut un petit peu de matière grasse, il vous faut quelques herbes aromatisantes, on va dire. Et puis c'est tout. Et des oignons.
Et des oignons.
Donc vous allez détailler vos pommes de terre en rondelles, vos oignons en rondelles. Vous allez faire revenir dans un petit peu de matière grasse, dans de l'huile d'olive, vos pommes de terre, de manière à commencer à les dorer, à les pré-cuire. Il faut qu'elles soient quand même pas complètement cuites, mais qu'elles aient bien avancé dans leur cuisson. Vous allez rajouter ensuite les oignons, faire revenir tout ça. Et puis avec vos œufs, vous battez comme une omelette.
Ouais.
Vous versez les œufs par-dessus les pommes de terre. Et là, vous ne touchez pas trop. Vous allez laisser tranquillement
saisir
en dessous, colorer. Et il faut que l'œuf commence évidemment à prendre la texture, à durcir. Et puis, toute la difficulté, c'est de la retourner.
Oui.
Une assiette plus grande que la poêle, hop, on retourne d'un coup.
Alors moi, ça tombe à côté.
Ouais, bah on essaye.
Mais vous m'avez donné un truc. C'est-à-dire, vous m'avez dit, on peut le faire au four aussi.
Alors, on peut la finir au four si on veut pas prendre le risque de la retourner pour qu'elle soit bien cuite partout. Mais franchement, c'est pas très compliqué. Il faut juste que l'assiette soit plus grande que la poêle. Un geste très rapide.
Oui.
Et puis après, vous pouvez évidemment finir de la cuire de l'autre côté. Mais c'est pas.
Sans qu'il y a de l'expérience.
Ouais.
Et puis, il faut quand même pas mal de pommes de terre pour donner de la densité.
D'accord. Ben merci.
Et puis après, on le mange chaud, froid.
Si vous manquez un des éléments, vous nous envoyez un message sur Twitter. Et puis, de toute façon, vous retrouvez tout ça sur europe1.fr. Jean-Baptiste Martinon, merci beaucoup. On va vous laisser repartir en courant. Mais merci d'avoir d'être passé
court,
par là.
Jean-Baptiste, court.
Toutes les informations Baba O'Run, c'est sur Facebook notamment. Vous avez une page.
Surtout sur Instagram.
Et sur Instagram aussi, avec des super photos de tous vos périples. Merci infiniment d'être passé par ce studio. Et un grand merci à vous, les Frangines.
Merci beaucoup,
Anne
et Jacinthe.
Votre album est sorti il y a quelques semaines. Il s'appelle Les Frangines, c'est logique. Vous continuez votre tournée de concert. Le 3 août, vous serez à Blois. Le 24 novembre à Nantes, le 27 novembre à Rennes et le 1er décembre dans la très jolie salle parisienne, le Trianon. On vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite.
Merci.
Lise Pressac et Olivier Pouls, on se retrouve demain, même lieu, même heure.
Oui,
on va encore parler de musique.
Et on sera là.
Avec un artiste extrêmement talentueux. Le compositeur et trompettiste Ibrahim Malouf sera notre invité pour nous présenter son nouvel album et évoquer tous ses projets. Et nous en sommes ravis par avance. Merci beaucoup, Jacinthe et Anne.
Merci à vous. C'était trop cool.
Je vous laisse en compagnie d'Anne Romanoff en vous souhaitant une très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À demain.